Chapitre 25. G0. L'impesanteur. Je n'avais jusqu'alors jamais apprécié à leur juste valeur ces termes et cette réalité. Notre nacelle était tellement opacifiée que la somptueuse lumière du soir rougeoyait comme à travers un épais parchemin. Une fois de plus, j'eus l'impression de me trouver à l'intérieur d'un cœur chaud. Une fois de plus, je m'aperçus combien aîné était dans mon propre cœur. Tout d'abord, les retrouvailles frôlèrent l'examen clinique lorsqu'elle m'ôta mes vêtements avec précaution et inspecta les cicatrices des opérations en voie de guérison, toucha mes côtes réparées et fit courir sa paume tout le long de mon dos. J'aurais dû me raser et prendre une douche.
Ne dis pas de bêtises,
chuchota mon ami.
Je t'ai donné un bain tous les jours avec une éponge et les soniques. Y compris ce matin. Tu es parfaitement propre, mon chéri. Et j'aime la barbe.
Ses doigts caressèrent ma joue. Nous flottions au-dessus des rayonnages souples et arrondis du placard. J'aidais Aîné à se libérer de sa chemise, de son pantalon et de ses sous-vêtements. Chaque pièce ôtée, elle l'expédiait d'un coup de pied dans le tiroir, refermant le panneau de fibres végétales avec son pied nu quand tout fut à l'intérieur. Nous pouffâmes de rire. Mes propres vêtements flottaient toujours dans l'air immobile. Les manches de ma chemise exécutaient de lents mouvements. « Je vais aller, commençais-je. »
« Non. »
Aîné m'attira plus près. En G0, même les baisers exigeaient de nouveaux savoir-faire. Les cheveux d'Aîné s'enroulèrent autour de sa tête en une couronne nimbée de soleil lorsque je pris son visage entre mes mains et la baisai sur les lèvres, les yeux, les joues, le front et de nouveau les lèvres. Nous commençâmes à culbuter lentement, frôlant la paroi douce et luisante qui était aussi chaude que la chair de mon ami. L'un de nous la repoussa du pied et nous basculâmes ensemble au milieu de la nacelle ovale. Nos baisers se firent plus pressants. Chaque fois que nous bougions pour étreindre l'autre plus fort, nous nous mettions à pivoter autour d'un centre invisible, bras et jambes entremêlés. Aussi nous nous serrions plus violemment et nous tournions plus vite. Sans nous séparer ou interrompre nos baisers, je tendis un bras dans l'espoir de nous rapprocher des parois tièdes, comme de la chair, pour mettre fin à nos culbutes. Le contact nous repoussa loin du mur courbe, luisant d'une lueur chaude, et nous renvoya tournoyer très lentement au centre. Aîné détacha ses lèvres des miennes, rejeta la tête en arrière un moment, et me regarda en me tenant à bout de bras. Je l'avais vu sourire 10 000 fois depuis les 10 dernières années de sa vie, je croyais connaître tous ses sourires, mais celui-là était plus profond, plus mûr, plus mystérieux et plus malicieux que tous les autres.
« Ne bouge pas, »
murmura-t-elle en s'appuyant doucement contre mon bras. Elle pivota dans l'espace.
« Aîné. »
Je ne trouvais rien d'autre à dire, puis je me tus. Je fermai les yeux, oublieux de tout sauf de mes sensations. Je sentis sur mes mollets les mains de ma chérie m'attirer plus près d'elle. Au bout d'un moment, ses genoux vinrent reposer contre mes épaules, ses cuisses frôlèrent ma poitrine. Je posai les mains sur la cambrure de son dos et l'attirai à moi, glissant ma joue le long du muscle vigoureux de l'intérieur de sa cuisse. À Taliesin Ouest, l'un des cuisiniers avait un chat tigré. Le soir, quand j'étais assis seul sur la terrasse ouest, regardant le coucher du soleil et sentant les pierres perdre leur chaleur diurne, attendant l'heure où Aîné et moi nous pourrions nous asseoir dans son abri pour parler de tout et de rien, je regardais le chat laper lentement son bol de crème. Je me rappelais ce chat maintenant, mais en quelques minutes, je ne pus rien évoquer d'autre que la sensation immédiate et irrésistible de ma chère amie s'ouvrant à moi, le goût subtil de la mer, nos mouvements comme une marée montante, tous mes sens centrés sur ce qui montait lentement au cœur de mon être. Pendant combien de temps flottâmes-nous ainsi? Je n'en ai pas la moindre idée. Une excitation aussi grande est comme un feu qui consume le temps. L'intimité totale nous exempte des exigences spatio-temporelles de l'univers. Seules les prérogatives croissantes de notre passion et l'inéluctable besoin d'être plus proche encore que cette pénultième proximité marquèrent les minutes de notre étreinte amoureuse. Aîné ouvrit plus largement les jambes, s'éloigna, sa bouche me relâcha, mais pas sa main. Nous pivotâmes de nouveau dans la lumière sépia, ses doigts serrés et mon excitation formant le centre de notre lente rotation. Nous nous embrassâmes, les lèvres mouillées. L'étreinte d'Aîné se resserra. « Maintenant, » chuchota-t-elle. J'obéis. S'il existe un vrai secret de l'univers, c'est celui-ci. Ces premières secondes de chaleur, de pénétration et d'abandon total de la bien-aimée. Nous nous embrassâmes encore, oublieux de notre lente culbute, tandis que la somptueuse lumière nous enveloppait d'une chaleur amoureuse. J'ouvris les yeux assez longtemps pour voir ses cheveux tournoyer comme la cape d'Ophélie dans l'océan d'air rougeâtre au sein duquel nous flottions. J'avais l'impression de tenir mon aimé dans une eau salée profonde. Flottant et dépourvu de poids, je sentais la chaleur d'Aîné m'emporter comme une marée montante. Nos mouvements étaient aussi réguliers que la vague sur le sable chaud.
« Oh là là !»
confia Aîné après cet instant de perfection. J'arrêtai de l'embrasser assez longtemps pour évaluer ce qui nous séparait. « La loi de Newton, » murmurai-je contre sa joue.
« À chaque action correspond, »
chuchota Aîné, gémissant doucement, tenant mes épaules comme une nageuse qui s'arrête pour se reposer.
« Une réaction égale et opposée, »
dis-je en souriant jusqu'à ce qu'elle m'embrasse de nouveau.
« Solution, »
balbutia Aîné. Ses jambes se refermèrent étroitement contre mes hanches. Ses seins flottaient, leur mamelon taquinant ma poitrine. Puis elle se laissa aller en arrière, nageuse de nouveau, flottant cette fois les bras écartés, mais les doigts toujours entrelacés avec les miens. Nous continuâmes à pivoter lentement autour de notre centre de gravité commun, lente culbute, ma tête montait, descendait et tournait comme un cavalier sur un marsouin qui ferait lentement la roue dans les profondeurs ensoleillées. Je n'étais plus conscient de l'élégante balistique de notre étreinte amoureuse, mais seulement de celle-ci. Nous bougions plus vite dans le chaud océan d'air. Quelques minutes plus tard, Aîné me relâcha les mains, se cabra tandis que nous culbutions ensemble, toujours en mouvement, enfonça ses ongles courts dans mon dos en m'embrassant avec une fébrilité sauvage, puis dégagea sa bouche pour haleter et crier, une fois, doucement. Au même instant que son cri, je sentis son univers chaud se contracter autour de moi en pulsations brèves, intimes, partagées. Une seconde plus tard, c'était mon tour de halter, de m'accrocher à mon aimé tandis que je palpitais en elle, pour chuchoter dans son cou salé et ses cheveux flottants.
« Aîné, aîné !»
Une prière, ma seule prière alors, ma seule prière maintenant. Pendant longtemps, nous flottâmes enlacés, même après être devenus deux êtres au lieu d'un. Nos jambes étaient toujours entremêlées, nos doigts se caressaient et se tenaient. Je baisai sa gorge et sentis son pouls comme l'écho d'un souvenir contre mes lèvres. Elle fit courir ses doigts sur ma tête trempée de sueur. Je pris conscience à cet instant que rien dans le passé n'importait, que rien de terrible dans l'avenir n'importait. Seul comptait sa peau contre la mienne, sa main qui me tenait, le parfum de ses cheveux, de sa peau, et la chaleur de son sein contre ma poitrine. Ça, c'était le Satori. Ça, c'était la vérité. Aîné se dirigea d'un coup de pied vers le placard de la nacelle, juste assez longtemps pour en ramener une petite serviette chaude, mouillée. À tour de rôle, nous essuyâmes notre sueur. Ma chemise flottait non loin, ses manches vides essayaient de nager dans les doux courants d'air. Aîné rit et s'attarda à me laver, me sécher, cet acte simple devenant rapidement autre chose.
« Oh là là !»
s'exclama Aîné en me souriant.
« Comment est-ce arrivé ?»«
La loi de Newton, dis-je. »«
C'est possible, » murmura-t-elle. « Alors quelle serait la réaction si je faisais... ceci ?»
Je pense que nous fûmes tous deux surpris par le résultat instantané de son expérience.
« Nous avons encore des heures avant de rejoindre les autres sur le vaisseau Harpre, »
fit-elle remarquer. Elle dit quelque chose à la nacelle vivante et le mur courbe devint totalement transparent. La chaleur du soleil nous baigna en un instant. C'était comme si nous flottions entre ces innombrables branches et ces feuilles grandes comme des voiles, comme d'être immergés dans la nuit et les étoiles lorsque nous regardâmes de l'autre côté.
« Ne t'inquiète pas. Nous pouvons voir dehors, mais de l'extérieur, la cloison est opaque. C'est une surface réfléchissante. »
« Comment peux-tu en être certaine ? » fis-je à voix basse en l'embrassant de nouveau dans le cou, à la recherche de son pouls si doux. Aînée soupira.
« Je suppose que c'est impossible si l'on ne sort pas pour regarder à l'intérieur. Une sorte de problème à la David Hume ?»
J'essayais de me souvenir de mes lectures philosophiques à Taliesin, de me remémorer nos discussions sur Berkeley, Hume et Kant et m'esclaffais. « Il y a un autre moyen de le vérifier », fis-je en frottant mon pied nu le long de ses mollets et de ses cuisses.
« Lequel ?»
murmura mon ami, les yeux fermés. « Si quelqu'un peut voir à l'intérieur, » dis-je en flottant derrière elle, frottant son dos sans la laisser s'éloigner, « il va y avoir une immense foule d'angextraux, de templiers des vaisseaux arbres et de fermiers des comètes attroupés là dans une demi-heure. »«
Vraiment ?»
dit Aînée, les yeux toujours fermés.
Et pourquoi cela ?
Je commençais à le lui montrer. Elle ouvrit les yeux.
Ça, par exemple ?
S'exclama-t-elle. Je craignis de l'avoir choqué.
Roll ?
Chuchota-t-elle. Fis-je sans m'arrêter. Je fermai les yeux.
Tu as peut-être raison en disant que la nacelle est une surface réfléchissante à l'extérieur.
Puis elle soupira de nouveau, plus profondément cette fois. Elle me saisit par les oreilles, se rapprocha encore plus et me confia à l'oreille.
Pourquoi ne pas laisser la paroi extérieure transparente et rendre la paroi intérieure réfléchissante ?
Mes yeux s'ouvrirent brusquement.
Je blaguais,
plaisanta-t-elle. Et elle s'éloigna de la paroi de la nacelle en me tirant avec elle dans la sphère centrale d'air chaud. Les étoiles flamboyaient autour de nous. Nous portions des tenues noires protocolaires au dîner et à la conférence qui eurent lieu à bord de l'Yggdrasil. J'étais tout excité à l'idée de me trouver sur l'un des légendaires vaisseaux-arbres, et ce fut une déception de m'apercevoir que je n'avais pas remarqué à quel moment nous étions passés des branches de la biosphère à son tronc. Ce ne fut que lorsque des centaines d'entre nous se rassemblèrent sur une série de plateformes et de nacelles ouvertes, et que le vaisseau-arbre appareilla et s'éloigna des feuilles grandes comme des cités, des branches arbres comme des provinces et des troncs grands comme des continents qui l'avaient encerclé, que je pris conscience que nous étions à bord. L'Yggdrasil devait faire plus d'un kilomètre de long, de la cime resserrée de l'arbre au système de racines de sa base, resplendissant d'énergie de fusion en ébullition. Il y avait un peu de pesanteur à cause de notre propulsion, probablement quelques décimales de microgravité, mais c'était tout de même déconcertant après tant d'impesanteur. Cela aida les douzaines d'entre nous à s'orienter, à s'asseoir aux tables et à se regarder dans les yeux au lieu de flotter pour trouver une position polie. Je pensais à Aînée et aux dernières heures passées ensemble, cette idée me fit rougir. Il y avait des tables et des chaises sur les plateformes des nombreux niveaux, et beaucoup de ceux qui n'y étaient pas installés se pressaient sur les ponts suspendus trop légers, reliant ces plateformes à d'autres branches qui s'étendaient sur de longues distances, ou sur les hélices des escaliers tournant entre les branches et ligotant le tronc central comme du lierre, ou se perchaient sur des lianes et dans des tonnelles feuillues. Aînée et moi étions assis à la table ronde centrale, en compagnie de la voix de l'arbre authentique, Etmastin, des chefs extro, de deux douzaines d'autres templiers, des réfugiés de Tian Shan et d'autres encore. J'étais à la gauche d'Aînée et les dignitaires du temple à sa droite. Même aujourd'hui, je me souviens encore des noms de la plupart des personnes présentes à la table principale. Outre le capitaine du vaisseau-arbre, Etmastin, il y avait une douzaine d'autres templiers, y compris Ket Rostin, qu'on me présenta comme la voix de l'arbre étoile authentique, le grand prêtre du Muir et le porte-parole de la fraternité des templiers. La douzaine d'extro comprenait Sistench Coredwell et Nafson Amnim, mais il y en avait d'autres qui ressemblaient peu à ces grands archétypes minces. Amshipeta et Kent Quinkent, deux extros plus petits et plus bruns, un couple marié, je pense, aux yeux pétillants, sans palmure entre les doigts. Sian Quintana Kahan, une femme qui portait une resplendissante robe de plumes brillantes, ou était née avec, et ses partenaires aux plumes bleues Paul Huret et Morgan Bottoms. Deux autres correspondaient mieux à l'image extro, Drivenj Nikahagat et Palou Koror, car ils étaient adaptés au vide et gardèrent leur combinaison peau argentée pendant tout le banquet. Il y avait quatre sénéchés à l'huit d'Hébron, Lioun et Ouiol, que j'avais rencontrés à la réunion précédente, ainsi qu'une autre paire de silhouettes vertes élancées qu'Aîné me présenta comme Aloui et Nihilou. Je ne pus que supposer qu'ils étaient tous quatre apparentés ou attachés par des liens matrimoniaux complexes. Je crus les étranges Akerata Elis absents jusqu'à ce qu'Aîné me montrât un endroit, au loin, parmi les branches, où la microgravité était encore moindre, et là, entre les diaphanes et les oiseaux lueurs, flottaient les plaquettes. Même les délimiteurs d'ergue qui contrôlaient le champ de confinement du vaisseau-arbre étaient représentés par trois cubes de Mobius avec des disques translateurs enchâssés dans leur matrice noire. Le père capitaine de Soya se trouvait à ma gauche, à côté de son assistant, le sergent Grégorius. Près de ce dernier était assis le colonel Fedman Kassad, dans son uniforme noir officiel de la force, comme un holo projeté depuis le passé reculé de l'hégémonie. À côté de lui, l'allée du tonnerre se tenait aussi droite et fière que le vieux guerrier, et à la gauche de celle-ci, les yeux brillants et attentifs, Getswang Nuang Lopsang Tenging Yapso Sisung Wang Gyo Chung Pamapai Depal Sangpo, le petit Dalai Lama. Tous les autres réfugiés de Tien Shan étaient quelque part sur la plateforme où nous dînions, et je vis Lomo Dondrub, Lapsang Samtem, Georges et Jigme, Haruyuki, Kenshiro, Wojtek, Vicky, Kuku, Kei, et d'autres encore présents à la table principale. Après les Templiers, presque en face de nous, se trouvaient Abétik, Rachel et Théo Bernard. Rachel gardait les yeux fixés sur le colonel Kassad, sauf pour regarder Aîné quand celle-ci prenait la parole. C'était comme si nous n'étions pas là. Les minuscules serviteurs des Templiers, qui, me prévint Aîné, étaient les clones de l'équipage, servirent de l'eau et des boissons plus fortes, et pendant un moment, ce furent les murmures habituels et la conversation polie d'avant-dîner. Puis régna un silence aussi lourd qu'une prière. Quand Kate Rostin, la voix de l'arbre étoile authentique, se leva pour parler, tout le monde fit de même.
« Mes amis, » dit la petite silhouette encapuchonnée, « frères compagnons dans le muir, honorables alliés extro, sœurs et frères sentients de l'ultime arbre de vie, réfugiés humains de la Pax, et, » la voix de l'arbre étoile authentique s'inclina en direction d'Aîné, « révérés qui enseignent. » Comme la plupart de ceux qui sont rassemblés ici le savent, ce que l'Église du Gritch appelait autrefois les jours de l'expiation que nous vivons depuis trois siècles, sont presque terminés. Les voies authentiques de la fraternité de Muir ont suivi le chemin de la prophétie et de la conservation, attendant que passent les événements qui survenaient, plantant des graines lorsque le sol de la révélation se révélait fertile. Dans les mois et les années à venir, des choix vont déterminer le futur de nombreuses races, et pas seulement de la race humaine. Il est vrai que certains d'entre nous ont reçu le don d'entrevoir les structures de l'avenir, les probabilités jetées comme des dés sur le tapis inégal de l'espace et du temps, mais même ceux-là savent qu'aucun futur unique n'a été réglé à l'avance pour nous ou notre postérité. Les événements sont fluides. Le futur est comme la fumée qui s'élève d'une forêt en feu, attendant que le vent des événements particuliers et du courage personnel chasse les étincelles et les braises de la réalité dans telle ou telle direction. Aujourd'hui, sur ce vaisseau-arbre, à bord de l'Yggdrasil reconstruit et rebaptisé, nous allons choisir les voies particulières de nos propres futurs. Je ne prierai pas seulement la force de vie entrevue par le muir pour que survive la biosphère de l'arbre étoile, pour que la fraternité survive, pour que nos frères extro survivent, pour que nos cousins sentients, pour chasser et harceler les sénéchets, les Acheratae-lis, les ergues et les éplins survivent, pour que l'espèce connue sous le nom d'humanité survive, mais pour que nos prophéties commencent à se réaliser aujourd'hui et que toutes les espèces de la vie bien-aimée, l'humanité pas plus que la tortue à coquille molle ou la gueule de lampe de Mare Infinitus, l'araignée sauteuse et l'arbre Tesla, le raton laveur de l'ancienne Terre et le faucon Thomas de l'Alliance Maui, toutes les espèces de la vie bien-aimée se joignent pour faire renaître le respect en partenaires différents du cycle de la vie en train de grandir dans l'univers. La voix de l'arbre étoile authentique se tourna vers Aîné et s'inclina. Révéré qui enseigne. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui à cause de vous. Nous savons, d'après vos prophéties, d'après ceux de notre fraternité et d'ailleurs, qui ont effleuré la connexion centrale, connue sous le nom de Vide Kili, que vous êtes le meilleur, l'unique espoir de réconciliation entre l'humanité et le centre, entre l'humanité et l'autre espèce. Nous savons aussi que le temps nous manque et que le futur immédiat détient en puissance à la fois l'amorce de cette réconciliation et de notre libération et une destruction presque totale. Avant qu'aucune décision ne soit prise, il y en a parmi nous qui doivent poser d'ultimes questions. Vous joindrez-vous à nous pour discuter? Est-ce le moment de parler de choses qui doivent être énoncées et comprises avant que toutes les planètes et les demeures des extros, des Templiers de la Pax et de l'humanité disparate s'unissent dans l'ultime bataille pour l'âme de l'humanité ?
Oui,
dit Aîné. La voix de l'arbre étoile authentique s'assit. Aîné se leva et attendit. Je sortis mon scripteur de la poche de ma veste. L'extro Sistench Coredwell.
H. Aîné, révéré qui enseigne, pouvez-vous nous dire avec certitude si l'assaut de la Pax et la destruction épargneront la biosphère, notre arbre étoile?
Aîné.
Cela m'est impossible, homme libre Coredwell. Et si je le pouvais, j'aurais tort d'en parler. Ce n'est pas mon rôle de prédire des probabilités dans les grands épicycles de chaos que sont les futurs. Je peux sans doute dire que les prochains jours, les prochaines semaines, seront décisifs pour la survie ou la disparition de cette étonnante biosphère. Nos propres actions en décideront dans une large mesure, mais il n'y a pas une unique ligne de conduite juste. Et j'aimerais vous demander quelque chose. Il y a ici des amis à moi pour qui l'arbre étoile et l'espace extra sont choses nouvelles. Cela éclairerait notre discussion si l'un de nos hôtes voulait bien expliquer les antécédents des extra, de la biosphère et de vos autres projets, et exposer la philosophie des extros et des templiers.
L'extro Sian Quintana Kahan.
Je parlerai avec plaisir à nos nouveaux invités, ami Aîné. Il est important que tous ceux présents à ces délibérations comprennent quel est notre enjeu. Comme tous nos frères extros et templiers le savent bien, la race extro fut créée il y a plus de 800 ans. Dans des douzaines de systèmes stellaires très éloignés les uns des autres. Des vaisseaux d'ensemencement humain emportant des colons qui pratiquaient l'ingénierie génétique quittèrent le système solaire de l'ancienne Terre lors de la grande expansion pré-égyrienne. Ces astronefs étaient plus lents que la lumière. Flottes de rudimentaires statoréacteurs Bussard, de vaisseaux à voile solaire, de capteurs d'ion, de véhicules à propulsion nucléaire, de petites sphères Dyson à antigravité, de vaisseaux à voile dont le champ de confinement était alimenté par des lasers. Seules quelques douzaines de vaisseaux d'ensemencement plus tardifs furent équipés de la nouvelle propulsion Hawking C+. Ces colons, nos ancêtres, dont la plupart voyagèrent en sommeil froid, plus profond que la fugue cryotechnique, comptaient parmi les meilleurs aérénistes, ingénieurs généticiens, et nanotech que le système de l'ancienne Terre avait à offrir. Leur mission consistait à trouver des mondes habitables, et étant donné l'absence de toute technologie de terraformation, de biogérer les millions de formes de vie de l'ancienne Terre congelées à bord de leurs vaisseaux, afin qu'elle s'adapte à ces mondes. Comme nous le savons, quelques-uns de ces vaisseaux d'ensemencement atteignirent des mondes habitables, Nouvelle-Terre, Tosseti, le monde de Barnard. Cependant, la plupart atterrirent sur des planètes où aucune forme de vie ne pouvait survivre. Les colons avaient alors le choix. Soit ils continuaient, en espérant que les systèmes d'équipement de vie de leur vaisseau les maintiendraient pendant d'autres longues décennies ou siècles de voyage, soit ils utilisaient leur savoir-faire génétique pour s'adapter et adapter les embryons de leur arche à des conditions infiniment plus difficiles que celles imaginées par les concepteurs des vaisseaux d'ensemencement. Et c'est cela qu'ils firent. Exploitant les recherches les plus pointues de la nanotechnologie, recherches bannies sur l'ancienne Terre et dans l'hégémonie par le technocentre, ces êtres humains s'adaptèrent au monde violemment inhospitalier et aux espaces sombres encore moins hospitaliers qui se déployaient entre les planètes et les étoiles. Au cours des siècles, l'utilisation de la propulsion Hawking s'étendit à la plupart de ces essaims de colons extro, mais leur désir de découvrir des mondes plus accueillants s'était évanoui. Ce qu'ils voulaient maintenant, c'était continuer à s'adapter, permettre à tous les orphelins de l'ancienne Terre de s'adapter aux conditions, quelles qu'elles soient, que leur offraient ces lieux de vie et l'espace. Avec cette nouvelle mission se développa leur nouvelle philosophie, notre philosophie, presque religieuse par sa ferveur, qui vise à propager la vie dans toute la galaxie, dans tout l'univers. Pas seulement la vie humaine, pas seulement les formes de vie de l'ancienne Terre, mais la vie dans toutes ses variations complexes et infinies. Certains de nos visiteurs, ici, ce soir, peuvent ne pas savoir que notre but ultime à nous, les extros, et celui de nos frères templiers, n'est pas seulement la biosphère de l'arbre étoile telle que nous pouvons la voir autour de nous, mais qu'un jour, l'air, l'eau et la vie rempliront presque tout l'espace entre l'arbre étoile et le soleil jaune qui brûle au-dessus de nous. La fraternité du Muir et nos confédérations libres d'extro veulent, par-dessus tout, faire verdir de vie la surface, les mers et l'atmosphère de chaque planète autour de chaque étoile. Plus que cela, nous travaillons pour qu'un jour la galaxie devienne verte, pour que des vrilles, des superfilaments de vie atteignent les galaxies voisines. L'une des conséquences de cette philosophie, et la raison pour laquelle l'Église et la Pax cherchent à nous détruire, c'est que depuis des siècles, nous avons façonné l'évolution humaine pour qu'elle s'adapte aux exigences que l'environnement nous impose. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'espèce humaine différente de l'Homo sapiens. C'est-à-dire que nous tous ici, si les deux partenaires sont d'accord, pouvons nous reproduire avec n'importe quel templier ou humain de la Pax. Mais les différences s'accroissent, le fossé génétique s'élargit. Déjà, il existe des formes d'humanité extra si différentes que nous frôlons la création de nouvelles espèces humaines. Et ces différences sont transmises génétiquement à notre progéniture. Cela, l'Église est incapable de le supporter. Aussi, nous nous sommes engagés dans cette terrible guerre qui va décider si l'humanité restera à jamais une seule espèce ou si notre célébration de la diversité dans l'univers peut se permettre d'aller plus loin.
Aîné.
Merci, femme libre Sian Quintana Khan. Je suis certaine que tout cela a beaucoup éclairé mes amis arrivés depuis peu dans l'espace extra et à raviver nos souvenirs, ce qui est peut-être aussi important au moment où nous allons prendre des décisions capitales. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole?
Dalai Lama.
Ami aîné, j'ai un commentaire à faire et une question à poser. La promesse d'immortalité de la Pax m'a séduit au point que j'ai envisagé, durant seulement quelques instants, de me convertir à sa foi chrétienne. Nous aimons tous la vie. C'est le fil brillant commun à tous les hommes. Pouvez-vous me dire pourquoi le cruciforme nous est néfaste? Le fait que ce soit un symbiote ou un parasite ne le rend impensable ni pour moi, ni pour beaucoup d'autres? Cela, il fallait que je le signale. Nos corps abritent de nombreuses formes de vie. Les bactéries de nos intestins, par exemple, qui se nourrissent de nous mais nous permettent de vivre. Ami aîné, qu'est-ce que le cruciforme? Et pourquoi devons-nous l'éviter?
Aîné ferme les yeux pendant une seconde, soupire, et les rouvre pour répondre au petit garçon.
Votre sainteté, le cruciforme est né du désespoir qui s'empara du technocentre après l'attaque de Meina Gladstone contre lui, dans les heures qui succédèrent à la chute des distances. Le technocentre, comme je vous l'ai exposé lors de différentes discussions, vit et pense uniquement en parasite. En ce sens, l'humanité a longtemps été un partenaire symbiotique du centre. Notre technologie a été créée et limitée par les projets du centre. Nos sociétés ont été créées, altérées et détruites par les plans du centre et les peurs du centre. La danse éternelle de la peur et du parasitisme avec les IA du centre a en grande partie déterminé notre existence d'être humain. Après la chute, après que le centre eut perdu le contrôle de l'hégémonie dont il s'était emparé grâce à ses infosphères et ses distances, après que le centre eut perdu son plus grand équipement informatique, son parasitisme direct de milliards de cerveaux transitant dans le vide qui lie par les prétendues distances, il dut trouver un nouveau moyen d'exploiter l'humanité. Et rapidement. D'où le cruciforme. C'est la plus raffinée et la plus nuisible nanotechnologie qui soit. Alors que nos amis extro utilisent l'ingénierie génétique de pointe, combinée à la nanotechnologie, pour faire progresser la cause de la vie dans l'univers, le technocentre l'utilise pour faire progresser la cause de l'hyperparasitisme du centre. Chaque cruciforme est composé de milliards d'entités nanotech reliées au centre. Chacune d'elles est en contact avec les autres cruciformes et le centre grâce à un emploi abusif du vide qui lie. Le technocentre connaît ce milieu depuis un millénaire et l'utilise abusivement depuis presque aussi longtemps. La prétendue propulsion Hawking faisait des trous dans le vide. Puis les distances ont déchiré le tissu fondamental du vide. La métasphère d'information et le canal large instantané, commandé par le centre, dérobèrent l'information du vide qui lit d'une manière qui aveugla des races entières et détruisit un millénaire de mémoire. Mais l'usage abusif le plus cynique et le plus terrible du vide qui lit par le centre, c'est le cruciforme. Ce qui semble le plus miraculeux dans le cruciforme, ce n'est pas sa capacité de restaurer une forme de vie, la technologie en offre diverses variations depuis des siècles, mais sa capacité à restaurer la personnalité et les souvenirs de la personne décédée. Quand on prend conscience que cela exige des capacités de conservation de l'information dépassant 6×10^23 octets pour chaque humain ressuscité, le cruciforme semble vraiment miraculeux. Les membres de la hiérarchie de l'Église qui connaissent le rôle secret que joue le centre dans toutes les résurrections imputent ce pouvoir informatique stupéfiant, impossible, au potentiel de stockage de la mégasphère du centre. Mais le centre est loin de posséder cette capacité informatique. Même au beau jour où les ultimistes tentèrent de créer l'entité informatique artificielle parfaite, l'intelligence ultime, aucune IA ou série d'IA du centre n'eut la capacité d'emmagasiner suffisamment d'octets pour que le corps et la personnalité d'un seul être humain soient enregistrés et ressuscités. En réalité, même si le centre possédait cette capacité de conservation de l'information, il n'aurait jamais eu l'énergie nécessaire pour reformer les atomes et les molécules de l'entité vivante précise qu'est le corps d'un être humain, encore moins pour reproduire la danse ondulatoire complexe qui constitue une personnalité humaine. La résurrection d'une seule personne était et reste impossible pour le centre. C'est-à-dire que c'était impossible, à moins de piller et ravager encore plus le vide qui lie, ce milieu interstellaire transtemporel de la mémoire et des émotions de toutes les races sentientes. Ce que fit le centre sans aucun scrupule. C'est le vide qui lit, qui enregistre les personnalités ondulatoires individuelles des êtres humains portant un cruciforme. Celui-ci n'est, en lui-même, guère plus qu'un appareil nanotech de transfert de données conçu par le centre. Mais chaque fois qu'une personne est régénérée, les éléments de milliers de personnalités, humaines ou non, sont effacés de l'enregistrement plus permanent que constitue le vide qui lit. Ceux d'entre nous qui ont communié avec moi, qui ont appris le langage des morts et des vivants, qui ont tenté d'entendre la musique des sphères et qui ont réfléchi à la possibilité d'effectuer ce premier pas dans le vide qui lit, comprennent la terrible sauvagerie que représente ce vandalisme. Il faut y mettre fin. Je dois y mettre fin.
Aîné ferme les yeux un long moment, puis les rouvre et poursuit.
Mais ce n'est pas le seul mal que cause le cruciforme. Je le répète, les IA du centre sont des parasites. Elles ne peuvent pas s'empêcher d'être des parasites. Outre le contrôle qu'elles détiennent sur l'humanité par l'entremise de l'Église, et si tout le reste échoue, la douleur qu'elles administrent aux individus par les cruciformes, les IA ont une autre raison d'offrir la résurrection à l'humanité par ces parasites cruciformes. La chute des distrans interrompit l'utilisation de milliards de neurones humains par le centre, s'efforçant de créer une intelligence ultime liée à l'infosphère. Sans le stratagème des distrans grâce auquel les IA se fixaient comme des sangsues sur les cerveaux humains pour voler l'énergie vitale des neurones et des ondes de front holistique de leurs hôtes humains et brancher ces milliards d'esprits humains en équipement informatique parallèle, le projet de l'intelligence ultime dut prendre fin. Avec les cruciformes, le parasitisme des cerveaux humains a pu reprendre. Mais c'est maintenant une chose bien plus complexe que de simples connexions en parallèle dans l'infosphère, de milliards d'esprits humains mis au service des objectifs du centre. Il y a plusieurs centaines d'années, au XXe siècle, les chercheurs humains qui travaillaient sur des réseaux neurosimilaires, composés d'intelligences de silicone pré-IA, découvrirent que le meilleur moyen de créer un réseau neural créatif, c'était de le tuer. Dans les secondes précédant la mort, même durant les dernières nanosecondes de l'existence d'une conscience sentiente ou presque sentiente, les processus linéaires, essentiellement binaires, du réseau neural informatique franchissaient des barrières, devenaient follement créatifs en se libérant, au seuil de la mort, du traitement binaire oui-non. Les simulations de bataille par ordinateur de la fin du XXe siècle montraient que les réseaux neuraux mourants prenaient des décisions inattendues mais très novatrices. Par exemple, une IA primitive pressentiente contrôlant une flotte impliquée dans un combat naval simulé coulait brusquement ses propres navires endommagés afin que le reste de sa flotte puisse survivre. Tel était le génie de la créativité du réseau neural non linéaire mourant. Le centre a toujours manqué de ce type de créativité. De par son essence, il a l'architecture linéaire séquentielle des unités centrales de traitement en série, à partir desquelles il a évolué, couplée avec la mentalité obsessionnelle, non créatrice, du parasite ultime. Mais avec ce grand dispositif informatique à réseau neural du centre qui est la partie de la race humaine porteuse du cruciforme chrétien, il a trouvé une source de créativité presque illimitée. Tout ce dont les IA ont besoin pour leur catalyseur de créativité, c'est la mort de grande partie de ce réseau neural. Et les humains y pourvoient en abondance. Les IA du centre planent comme des vampires, attendant de se nourrir des cerveaux humains mourants, suçant la moelle de la créativité des os mentaux de l'humanité. Et quand le taux de mortalité descend en dessous du niveau nécessaire, ou quand la demande informatique de solutions créatrices du centre s'accroît, elles orchestrent quelques millions de morts en plus. De curieux accidents arrivent. La santé humaine n'est plus ce qu'elle était il y a quelques centaines d'années. Les morts dues au cancer, aux maladies cardiaques, etc., sont en augmentation. Et il y a des formes plus habiles de mortalité provoquées. Les archanges en sont un exemple encore à son début. La mort est une matière première bon marché pour le chrétien qui peut renaître. Mais pour le centre, c'est une source abondante de créativité orchestrée. D'où le cruciforme. Ainsi, je le crois, voilà au moins une raison d'éliminer ces choses du corps humain et de l'âme humaine. »
Quand Aîné cesse de parler, s'installe un long silence. Les feuilles de l'arbre vaisseau chuchotent dans la brise que crée l'air en train de circuler. Aucun des humains ou des hominidés, présents par centaines sur les nombreuses plateformes, branches, ponts ou escaliers, ne semble cligner des yeux, si intenses sont les regards qu'ils fixent sur mon ami. Pour finir, une seule voix forte prend la parole. Le père capitaine de Soya. Je porte encore le col romain et n'ai pas enfreint mes vœux de prêtre catholique. Y a-t-il un espoir pour mon église? Pas l'église de la Pax, tenue sous le contrôle du technocentre et de la vanité d'hommes et de femmes avides, mais l'église de Jésus-Christ et des centaines de millions de chrétiens qui ont suivi sa parole. Aîné.
Federico, père de Soya, c'est à vous de répondre à cette question. Vous et les fidèles qui vous ressemblent. Mais je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui des milliards d'hommes et de femmes, dont certains portent le cruciforme et d'autres non, qui aspirent à retrouver une église qui se soucierait vraiment de questions spirituelles et s'appuierait non sur cette obsession de fausse résurrection, mais sur l'enseignement du Christ et sur ce qu'il y a de plus profond dans le cœur.
Le Templier Etmastine.
Révéré qui enseigne, si je peux passer des sujets cosmiques et théologiques, à un autre plus personnel et insignifiant.
Aîné.
Rien de ce dont vous parlez peut être insignifiant, voix de l'arbre authentique Etmastine.
Le Templier Etmastine.
J'ai fait le pèlerinage d'Hyperion avec votre mère, révéré.
Aîné.
Elle m'a souvent parlé de vous. Voix de l'arbre authentique Etmastine.
Le Templier Etmastine.
Alors, révéré qui enseigne, vous savez que le Seigneur de la douleur, le Gritch, est venu me trouver tandis que les pèlerins traversaient la mer des hautes herbes à bord du chariot à vent. Il est venu à moi et m'a emporté dans le temps et l'espace, jusqu'à cette époque, jusqu'à cet endroit.
Aîné.
Oui, je le sais.
Le Templier Etmastine.
Dans mes conversations avec vous et avec mes compagnons de la fraternité, j'ai peu à peu compris que mon destin était de servir le Muir et la cause de la vie à cette époque-ci, comme l'ont prophétisé il y a plusieurs siècles, nos propres voyants en pénétrant dans le vide qui lit. Mais actuellement, et en dépit de tous les efforts de mes frères et des autres amis que je compte parmi les extros, j'ai entendu parler du poème épique de Martin Silenus et trouvé une édition des Cantos.
Aîné.
C'est fâcheux, voix authentique de l'arbre Etmastine. Mon oncle Martin a écrit au mieux de ses connaissances, mais celle-ci était incomplète.
Le Templier Etmastine.
Dans les Cantos, révéré qui enseigne, il est dit que les pèlerins, à leur époque, et mon ami le colonel Cassade l'a confirmé, m'ont retrouvé sur Hyperion, dans la vallée des tombeaux du temps, et que je suis mort peu après,
aîné.
C'est vrai dans le contexte des Cantos, mais...
Le Templier Etmastine, levant la main pour faire taire mon ami.
Ce n'est pas le caractère inévitable de mon retour dans le temps au sein du pèlerinage d'Hyperion, ni mon inévitable mort, qui m'inquiète, révéré qui enseigne. Je comprends qu'il s'agit seulement d'un futur possible, pourtant probable ou désirable. Mais ce que je souhaite apprendre, c'est si les dernières paroles que les cantos du vieux poète ont mises dans ma bouche, je les ai bien prononcées. Est-il vrai qu'immédiatement avant de mourir, j'ai crié « Je suis le véritable élu. Je dois guider l'arbre de la douleur durant le temps de l'expiation. »
Aîné.
C'est ce qui est écrit dans les cantos, voix authentique de l'arbre Etmastine.
le Templier Etmastin, souriant sous son capuchon.
« Et ce temps est proche, n'est-ce pas, révéré qui enseigne ? Allez-vous, comme les prophéties l'attestent, utiliser cet Yggdrasil comme un arbre de la douleur pour notre expiation ?»
Aîné.
« Je le ferai, voix authentique de l'arbre Etmastin. Je vais partir dans quelques jours standards pour m'acquitter de cette expiation. Je demande officiellement que l'Yggdrasil soit l'instrument de notre voyage et l'instrument de cette expiation. J'inviterai un grand nombre de ceux qui sont présents ici ce soir à se joindre à moi pour cet ultime voyage. Et je vous demande officiellement, voix authentique de l'arbre Etmastin, d'être le capitaine du vaisseau arbre Yggdrasil, qui sera connu à jamais sous le nom d'arbre de la douleur.
Le Templier Etmastin.
J'accepte officiellement votre invitation, et je serai le capitaine du vaisseau arbre Yggdrasil dans cette mission d'expiation, ô révéré qui enseigne.
Suivent plusieurs minutes de silence. L'homme libre Jigme Norbu.
Aîné, Georges et moi avons une question à vous poser.
Aîné.
Oui, Jigme.
L'homme libre Jigme Norbu.
Vous nous avez parlé du génocide que le technocentre a perpétué en secret sur des mondes comme Hébron, comme Riyad et d'autres. Ce n'est pas exactement un génocide, puisque les populations ont été mises dans un état de stase des fonctions vitales qui ressemble à la mort. Mais c'est un terrible enlèvement.
Aîné.
Oui.
L'homme libre Jigme Norbu.
Est-ce arrivé à notre bien-aimé Tien Shan, les montagnes du ciel, depuis que nous sommes partis ? Est-ce que nos amis et nos familles ont été réduits au silence par ce bâton de la mort du centre et transportés sur un monde labyrinthien ?
Aîné.
Oui, Jigme. Je suis triste de dire que c'est arrivé. Leurs corps sont, tandis que nous parlons, transportés sur un autre monde.
Coucoucé.
Pourquoi ? Pour quelle raison ces populations ont-elles été enlevées ? Les juifs, les musulmans, les hindous, les athées, les marxistes, et maintenant notre beau monde bouddhiste ? La Pax a-t-elle l'intention de détruire toutes les autres foi religieuses ?
Aîné.
C'est en effet la motivation de la Pax et de l'Église. Quant au technocentre, il a une raison plus complexe de faire cela. Comme ces populations non chrétiennes ne portent pas le parasite cruciforme, le centre ne peut pas s'en servir dans son réseau neural mourant. Mais en conservant ces milliards de personnes dans une fausse mort, le centre peut utiliser leurs esprits dans son immense réseau neural informatique monté en parallèle. C'est une affaire mutuellement bénéfique. L'Église, qui enlève les corps, n'est plus menacée par des non-croyants. Le centre, qui provoque ce sommeil de mort et entrepose les corps dans les labyrinthes, gagne de nouveaux circuits pour son réseau de l'intelligence ultime.
L'homme libre Georges Tsarong.
Alors, il n'y a aucun espoir. Nous ne pouvons rien faire pour aider nos amis.
L'extro Nafson Amnim.
Excusez-moi de vous interrompre, H-Aîné, H-Tsarong, mais nous devrions expliquer à nos amis que lorsque viendra le moment pour nos essaims extro et nos alliés les Templiers de s'attaquer à la Pax, notre premier objectif sera de libérer les nombreux mondes labyrinthiens où ces populations sont secrètement entreposées et de tenter de les ranimer.
La Dorje Famo, d'une voix forte.
Les ranimer ? Comment est-ce possible ? Comment pourrait-on les ranimer ?
Aîné.
En frappant directement le technocentre.
L'Homo Dondrube.
Et où est le technocentre, aîné ? Dites-le-moi, et j'irai tout de suite me battre avec ces lâches d'IA.
Aîné.
La vraie localisation du technocentre, l'Homo, a été le secret le mieux gardé des IA depuis que ces entités ont quitté l'ancienne Terre, il y a un millier d'années standard. Leur localisation physique actuelle a été dissimulée depuis lors. Ce secret est leur meilleure défense contre des hôtes qui peuvent se retourner contre leurs parasites.
Le colonel Fedman Kassad.
Lorsque la présidente Mayna Gladstone a décidé de s'attaquer au centre, elle était convaincue que les IA résidaient dans les interstices du milieu distance, comme d'invisibles araignées dans une toile invisible. Avait-elle tort ?
Ou les 10 trans ont-ils été détruits pour rien ?
Aîné. Elle se trompait, Fedman. Le centre n'était pas physiquement localisé dans le milieu d'Istrans, qui est le tissu du vide qui lie. Mais la destruction des Distrans n'a pas été vaine. Elle a privé le centre d'un véhicule parasite grâce auquel les IA se nourrissaient des esprits humains, tout en réduisant au silence une partie du réseau de données de leur mégasphère.
L'homodondrube.
Mais Aîné, vous savez où réside le centre ?
Aîné. Je crois que oui.
L'homodondrube.
Est-ce que vous nous le direz, afin que nous puissions les attaquer avec acharnement, et bien sûr avec des balles et des armes à plasma ?
Aîné. Je ne vous le dirai pas maintenant, Lomo. Pas jusqu'à ce que j'en sois certaine. Et le centre ne peut pas être attaqué avec des armes matérielles, tout comme il ne peut pas être envahi par des entités physiques.
Le colonel Fedman Kassad.
Alors, une fois de plus, ils sont inaccessibles aux attaques. Il est impossible de les affronter.
Aîné.
Non, ils ne sont pas inaccessibles. Et il est possible de les affronter. Si le destin le permet, je mènerai personnellement l'attaque contre le centre matériel. En fait, cette attaque a déjà commencé d'une manière que j'espère éclaircir plus tard. Et je vous promets que j'affronterai les IA dans leurs repères.
Le colonel Fedman Kassad.
Aîné, fille de Brown, puis-je vous poser une autre question qui concerne mon destin et mon avenir ?
Aîné.
Je m'efforcerai d'y répondre, colonel, tout en vous rappelant ma répugnance à discuter des détails d'un sujet aussi fluide que le futur.
Le colonel Fedman Kassad.
Répugnance ou non, enfant ? Je crois que je mérite une réponse à cette question. Moi aussi j'ai lu ces damnés Kantos. On y dit que j'ai suivi l'apparition Moneta dans le futur tout en combattant le Gritch, que j'ai essayé de l'empêcher de massacrer les autres pèlerins. C'était vrai, il y a quelques mois je suis arrivé ici. Moneta a disparu, puis reparu dans une version plus jeune de cette femme, qui prétend s'appeler Rachel Weintraub. Mais les Kantos déclarent aussi que je me livrerai bientôt à une terrible bataille avec des hordes de Gritch, que je mourrai et serai enterré dans le tombeau du temps récemment construit, appelé le monolithe de cristal sur Hyperion, où mon corps repartira dans le temps avec Moneta pour compagne. Comment cela peut-il être, Aîné ? Suis-je arrivé à la mauvaise époque ? Au mauvais endroit ?
Aîné.
Colonel Kassad, ami et protecteur de ma mère et des autres pèlerins, soyez certain que tout se déroulera comme prévu. Oncle Martin a écrit les Kantos, inspiré par une révélation qui lui a été accordée. Tous les détails de votre vie, ou de la mienne, n'ont pas été mis à sa disposition. En fait, on ne lui a dit que peu de choses de ce qui devait transpirer hors de sa présence. Je peux vous répondre ceci, colonel Kassad. La bataille avec le Gritch est un fait réel, même si elle est rendue dans le poème d'une manière très métaphorique. Mourir lors de cette bataille est un de vos futurs possibles, avec beaucoup de guerriers semblables au Gritch, et être déposé dans le monolithe de cristal après les funérailles que l'on réserve aux héros. Mais si cela devait se passer, ce serait après de nombreuses années et beaucoup d'autres batailles. Vous avez du travail à accomplir dans les jours, les mois, les années et les décennies à venir. Je vous demande maintenant de m'accompagner à bord de l'Yggdrasil quand je partirai, dans 3 jours. Ce sera le premier pas vers ces batailles.
Le colonel Fedman Kassad, souriant.
Mais vous détournez un peu la question, Aîné. Puis-je vous demander si le Gritch sera sur votre arbre de la douleur quand il partira dans ses 3 jours standards ?
Aîné.
Je le crois, colonel Kassad.
Le colonel Fedman Kassad.
Ce soir, vous ne nous avez pas dit ce qu'est le Gritch. D'où il vient vraiment ? Quel est son rôle dans ce jeu vieux de plusieurs siècles et de siècles à venir ?
Aîné.
C'est exact, colonel. Je ne l'ai dit à personne ici ce soir.
Le colonel Fedman Kassad.
L'avez-vous jamais dit à quelqu'un, enfant?
Aîné.
Non.
Le colonel Fedman Kassad.
Mais vous connaissez l'origine du Gritch?
Aîné.
Oui.
Le colonel Fedman Kassad.
Est-ce que vous nous le direz, enfant de Brown Lamia?
Aîné.
Je ne préfère pas, colonel.
Le colonel Fedman Kassad.
Mais vous le ferez si on vous le demande encore, n'est-ce pas? Au moins vous répondrez à mes questions directes sur ce sujet.
Aîné hoche la tête en silence. Je vois des larmes dans ses yeux. Le colonel Fedman Kassad.
D'après les Kantos, le Gritch apparaît d'abord dans ce futur reculé dans lequel je dois le combattre. Est-ce exact, Aîné? Ce futur dans lequel le centre résiste désespérément à ses ennemis.
Aîné.
Oui.
Le colonel Fedman Kassad.
Et le Gritch sera une machine, n'est-ce pas? Une chose créée. Une chose créée par le centre.
Aîné.
C'est exact.
Le colonel Fedman Kassad.
Ce sera un étrange amalgame de la sorcellerie technologique du centre, de l'énergie du vide qui lie, et de la personnalité hybride recyclée d'un véritable être humain, n'est-ce pas, Aîné?
Aîné.
Oui, colonel. Ce sera tout cela et plus encore.
Le colonel Fedman Kassad.
Et le Gritch sera créé par le centre, mais deviendra le serviteur et l'avatar d'autres pouvoirs, d'autres entités, n'est-ce pas?
Aîné.
Oui.
Le colonel Fedman Kassad.
En vérité, Aîné, vous admettez que le Gritch sera un pion utilisé par les deux parties, par tous les parties, engagés dans cette guerre pour l'âme de l'humanité. Cette guerre qui fait la navette dans le temps comme une partie d'échecs à quatre dimensions.
Aîné.
Oui, colonel. Bien que ce ne soit pas un pion. Un cavalier, peut-être.
Le colonel Fedman Kassad.
D'accord. Un cavalier. Et ce hybride connecté au vide qui lie, dont l'ADN et l'ARN ont été modifiés. Amplifié par la nanotechnologie. Ce chevalier terriblement muté. Il est né de la personnalité d'un unique guerrier, n'est-ce pas? Peut-être un adversaire dans ce jeu d'un millier d'années.
Aîné.
Avez-vous besoin de le savoir, colonel? Il n'y a pas d'enfer plus grand que de connaître les détails précis de son propre.
Le colonel Fedman Kassad, d'une voix douce.
De son propre avenir. De sa propre mort. De son propre destin. Je le sais, aînée, fille de mon ami Brown Lamia. Je sais que vous avez enduré des visions et des certitudes terribles depuis que vous êtes née. Depuis l'époque où votre mère et moi traversions les mers et les montagnes d'Hyperion, vers ce que nous croyons être notre destin avec le Gritch. Je sais que cela a été très dur pour vous, aînée, ma jeune amie. Plus dur que nous ne pouvons l'imaginer. Aucun de nous n'est né avec un tel fardeau. Mais je veux connaître cette partie de mon destin. Et je crois que mes années passées au service de cette cause, des années passées et des années à venir, me donnent le droit d'exiger une réponse. Est-ce que le Gritch est basé sur l'unique personnalité d'un guerrier humain?
Aîné.
Oui.
Le colonel Fedman Kassad.
La mienne. Après ma mort dans la bataille, les éléments du centre ou quelque autre puissance incorporeront ma volonté, mon âme, ma persona dans ce monstre et le renverront dans le temps par le monolithe de cristal.
Aîné.
Oui, colonel. Des parties de votre persona, mais seulement des parties, seront incorporées à la machine vivante appelée le Gritch.
le colonel Fedman Kassad, riant.
« Mais je peux aussi vivre pour le vaincre dans la bataille. »
Aîné.
« Oui. »
Le colonel Fedman Kassad, riant plus fort maintenant d'un rire qui semble sincère, naturel.
« Par Dieu ! Par la volonté d'Allah ! Si l'univers a une âme, c'est l'âme de l'ironie. Je tue mon ennemi, je mange son cœur, et l'ennemi devient moi, et je deviens lui. »
Plusieurs secondes de silence. Je vois que l'Yggdrasil, le vaisseau arbre, a fait demi-tour et que nous nous approchons de nouveau de la biosphère de l'arbre étoile. Rachel Weintraub.
Ami aîné, bien-aimé maître, pendant ces années où j'ai écouté votre enseignement et appris de vous, un grand mystère m'a hanté.
Aîné.
Quel est-il, Rachel ?
Rachel Weintraub.
Dans le vide qui lit, vous avez entendu les voix des autres, des races sentientes qui vivent par-delà notre espace et notre temps, dont les souvenirs et les personnalités résonnent dans le vide. Par la communion à votre sang, certains d'entre nous ont appris à entendre les chuchotements des échos de ces voix, celles des lions, des tigres et des ours, comme on les appelle.
Aîné.
Vous êtes l'une de mes meilleures élèves, Rachel. Un jour, vous entendrez clairement ces voix, tout comme vous apprendrez à entendre la musique des sphères et à faire le premier pas.
Rachel Weintraub, secouant la tête.
Ce n'est pas ma question, ami aîné. Le mystère pour moi, c'est la présence dans l'espace humain d'un observateur ou de plusieurs observateurs envoyés par ces autres, ces lions, ces tigres et ces ours, pour étudier l'humanité et faire sur eux un compte-rendu à ces lointaines races. La présence de cet observateur ou de ces observateurs, est-ce un fait réel ?
Aîné.
Oui.
Rachel Weintraub.
Et serait-il capable de prendre la forme d'un humain, d'un extro ou d'un templier ?
Aîné.
L'observateur ou les observateurs ne changent pas de forme, Rachel. Ils ont choisi de venir parmi nous sous une forme mortelle, c'est vrai. Tout comme mon père était mortel, mais né s'hybride.
Rachel Weintraub.
Est-ce que cet observateur ou ces observateurs nous guettent depuis des siècles ?
Aîné.
Oui.
Rachel Weintraub.
Est-ce que cet observateur, ou l'un de ces observateurs, est ici, avec nous, aujourd'hui, à bord de ce vaisseau arbre, ou à cette table?
Aîné hésite.
Rachel, il vaut mieux que je ne dise rien de plus en ce moment. Certains d'entre nous tueraient aussitôt cet observateur pour protéger la Pax, ou pour défendre ce qu'ils pensent être la définition de l'être humain. Même dire qu'un tel observateur existe met cette entité en grand danger. Je suis désolé. Je vous promets que ce mystère sera résolu dans un futur pas trop lointain. Et l'identité de l'observateur ou des observateurs révélés, pas par moi, mais par l'observateur ou les observateurs.
Le Templier voit de l'arbre étoile authentique Kate Rostin.
Frères dans le muir, alliés extro respectés. Honorables invités humains, bien-aimés amis sentients, révérés qui enseignent, nous terminerons cette discussion une autre fois et dans un autre lieu. Je pense que nous sommes d'accord pour accéder à la requête de Hachéné qui demande que le vaisseau arbre Yggdrasil parte pour l'espace de la Pax dans 3 jours standard. Ainsi, avec de la chance et du courage, s'accompliront les anciennes prophéties du temple de l'arbre de la douleur et du temps de l'expiation pour tous les enfants de l'ancienne terre. Maintenant, finissons notre repas et parlons d'autre chose. Cette séance officielle est levée et ce qui reste de notre court voyage doit être consacré à des conversations amicales, une bonne nourriture et le sacrement du vrai café fait à partir de grains récoltés sur l'ancienne terre, notre foyer à tous, la bonne terre. Cette séance est levée, j'ai dit.
Plus tard, ce même soir, dans la chaude lumière de notre nacelle, Aîné et moi fîmes l'amour, par l'âme de choses personnelles, et prîmes un dernier souper de fromage de zichèvre, de pain frais et de vin. Aîné alla dans la cuisine, y demeura un moment et revint avec deux bulles de vin en cristal. M'en offrant une, elle me dit
« Tiens, Rol, mon chéri, prends et bois. »
« Merci, » fis-je sans réfléchir, et je commençai à porter la bulle à mes lèvres. Puis je me figeai.
Est-ce...
As-tu...
Oui, c'est la communion que j'ai tant retardée en ce qui te concernait. Maintenant, elle est à toi si tu choisis de boire. Mais tu n'y es pas obligé, mon amour. Si tu décides de ne pas le faire, cela ne changera rien au sentiment que j'ai pour toi.
La regardant toujours dans les yeux, je bus jusqu'à la dernière goutte. Cela n'avait que le goût du vin. Aînée pleura. Elle détourna la tête, mais j'avais vu des larmes dans ses beaux yeux noirs. Je la pris dans mes bras et nous flottâmes ensemble dans la chaude lumière matricielle.
« Ma grande, » murmurai-je. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Mon cœur se serra, car je me demandais si elle pensait à l'autre homme de son passé, à son mariage, à son enfant. Le vin me faisait tourner la tête et me donnait la nausée. Ou peut-être n'était-ce pas le vin. Elle fit non de la tête.
Je t'aime, aînée.
Elle m'embrassa dans le cou et me serra contre elle.
Pour ce que tu viens de faire, à cause de moi, en mon nom, tu seras pourchassé et persécuté.
Je me forçai à rire.
Allons, ma grande.
J'ai été pourchassé et persécuté depuis le jour où nous avons fui la vallée des tombeaux du temps sur le tapis au King.
Il n'y a là rien de nouveau. Cela manquerait si la Pax ne nous pourchassait pas.
Elle me sourit. Je sentis ses larmes couler sur ma gorge et ma poitrine tandis qu'elle me serrait encore plus fort.
Tu seras le premier parmi tous ceux qui me suivront, Rol. Tu seras le chef. Dans les dizaines et dizaines d'années de lutte à venir, tu seras respecté et haï, obéi et méprisé. On voudra faire de toi un dieu, mon chéri.
Foutaise. Bougonnai-je dans les cheveux de mon ami.
Tu sais que je ne suis pas un meneur, ma grande. Je n'ai rien fait que te suivre pendant toutes ces années.
Bon Dieu, j'ai passé la plus grande partie de mon temps à essayer de te rattraper. Aînée leva son visage vers le mien.
Je t'ai choisi avant ma naissance, Rol Endymion. Quand je tomberai, tu continueras pour nous. Nous vivrons tous deux à travers toi.
Je mis mon gros doigt sur ses lèvres. J'essuyai les larmes de ses joues et de ses cils avec mes baisers.
« Ne parle pas de mourir ou de vivre l'un sans l'autre, » lui ordonnai-je. « Mon plan est simple. Rester avec toi pour toujours. Tout le temps. Pour tout partager. Ce qui t'arrive, ce qui m'arrive, ma grande. Je t'aime, aînée. »
Nous flottions dans l'air chaud. Je la berçai dans mes bras.
« Oui, »
promit mon ami en m'étreignant avec violence.
Je t'aime, Rol. Ensemble. Le temps. Oui.
Alors nous cessâmes de parler. Je goûtais le vin et le sel de ses larmes dans nos baisers. Nous fîmes l'amour pendant des heures, puis nous glissâmes ensemble dans le sommeil, flottant, enlacés dans notre mutuelle étreinte, comme deux créatures marines, comme une merveilleuse et complexe créature marine, dérivant dans une marée chaude et amicale. Chapitre 26. Le jour suivant, nous prîmes le vaisseau du consul pour aller vers le soleil. En me réveillant, j'avais espéré éprouver une sorte d'illumination, recevoir du jour au lendemain un satori, issu du vin de communion, au minimum posséder une compréhension plus profonde de l'univers, au mieux être doué d'omniscience et d'omnipotence. Mais je me retrouvais avec une vessie pleine, un léger mal de tête et d'agréables souvenirs du soir précédent.
Aîné s'était réveillé avant moi et le temps que je sorte des toilettes, il y avait du café chaud dans la bulle cafetière, du jus de fruits dans son bocal et des petits pains chauds tout frais.
« Ne t'attends pas à être servi tous les matins, » dit-elle avec un sourire.
« D'accord, ma grande.
Demain, je ferai le petit déjeuner. »«
Une omelette ?» demanda-t-elle en me tendant une bulle de café. Je brisai le seau, humais l'arôme et pressai le récipient pour en tirer une goutte, en prenant soin de ne pas me brûler les lèvres ou de laisser le globule de café chaud s'envoler.
« Ouais, tout ce que tu veux. Tu auras de la chance si tu trouves des œufs. »
dit-elle en terminant son petit pain en deux bouchées.
« Cet arbre étoile est bien tenu, mais il manque de poulet. »
« Quel dommage !» répliquai-je en regardant au travers de la paroi transparente de la nacelle. « Il y a tellement d'endroits où se percher. » Je changeai de ton, devenant sérieux.
« Ma grande, au sujet du vin, je veux dire, ça fait environ 8 heures standard et... tu ne sens rien de nouveau ?» Je suppose que tu es l'un de ces rares individus sur lesquels la magie n'agit pas.
Vraiment ? Ma voix dut paraître alarmée ou soulagée, ou les deux parce qu'Aîné secoua la tête.
Allons, je blaguais. Dans 24 heures standard environ, tu sentiras quelque chose. Je te le garantis.
Et si nous sommes occupés quand le temps viendra ? Dis-je en haussant les sourcils pour souligner ce que je voulais dire. Ce mouvement suffit à m'envoyer flotter au-dessus de la table de stictite. Aîné soupira.
Tu ferais bien de redescendre avant que j'agrafe ses sourcils pour qu'ils restent en place.
Dis-je en lui souriant au-dessus de la bulle de café. J'adore quand tu parles comme ça.
Dépêche-toi,
répliqua Aîné en mettant la sienne dans la machine à laver sonique et en recyclant la nappe. J'étais content de manger mon petit pain en contemplant l'incroyable vue à travers la paroi. « Te dépêcher ? Pourquoi ? Allons-nous quelque part ?»«
Une réunion à bord du vaisseau, » répondit Aîné. « De notre vaisseau. Puis nous reviendrons surveiller le dernier ravitaillement de l'Yggdrasil afin de pouvoir partir tôt demain matin. »«
Pourquoi à bord de notre vaisseau ? On ne sera pas un peu à l'étroit par rapport à tous ces autres endroits ?»
« Tu verras bien, »
dit Aîné. Elle avait revêtu un pantalon G0 d'un bleu doux, serré à la cheville, et une chemise blanche avec plusieurs poches fermées par du stictite. Elle portait des mules grises. J'avais pris l'habitude de me déplacer pieds nus dans notre niche et dans les différentes tiges et nacelles.
« Dépêche-toi, » répéta-t-elle. « Le vaisseau part dans 10 minutes et il y a un long trajet de liane jusqu'à la nacelle d'amarrage. »
Le vaisseau était plein à craquer, et bien que le champ de confinement interne maintint la gravité à 1/6 de G, j'eus l'impression, après cette nuit passée en impesanteur, de me retrouver sur Jupiter. Cela semblait étrange de se serrer sur un seul plan dimensionnel, alors que tout cet espace aérien, au-dessus de nos têtes, ne servait à rien. Sur le pont de la bibliothèque du vaisseau du consul, il y avait avec nous, assis sur le piano, sur les bancs, dans les fauteuils rembourrés et tout autour de la fosse holo, les extros Nafson Amnim, Sistench Corredwell, Sian Quintana Kahan, resplendissante dans ses plumes, les deux extros argentés adaptés au vide, Palou Koror et Derivenge Nika Agat, Paul Huret et Amshipeta. Et Mastin était là avec son supérieur, Kate Rostin, le colonel Kassad, aussi grand que les extros imposants, la dorgée Famo, l'air très vieille et royale dans une robe gris glacée qui ondulait joliment dans la gravité basse, ainsi que Lomo, Rachel, Théo, Abétique et le Dalai Lama. Aucun des autres êtres sentients n'était présent. Plusieurs d'entre nous sortirent sur le balcon pour regarder la surface interne de l'arbre étoile s'éloigner, tandis que le vaisseau montait vers l'étoile centrale sur son pilier de flamme de fusion bleue.
« Vous êtes le bienvenu, colonel Kassad, »
dit le vaisseau tandis que nous nous rassemblions à l'étage de la librairie. Je levai un sourcil en regardant Aîné, surpris que le vaisseau ait réussi à se souvenir de son passager des anciens jours.
« Merci, vaisseau, » dit le colonel.
L'homme brun et grand semblait distrait au point de paraître maussade. Sortir de la couche interne de la biosphère de l'arbre étoile me donna une impression de vertige tout à fait différente de celle que l'on éprouve en regardant la sphère d'une planète rapetissée.
Ici, nous étions toujours à l'intérieur de la structure orbitale. Quand on se trouvait parmi les branches de l'arbre étoile, on ne captait par l'une des brèches qui s'ouvraient entre les feuilles et les troncs que des aperçus du champ d'étoiles du côté opposé au soleil et, partout ailleurs, de grands espaces. Mais ici, à 100 000 clics, en mouvement ascensionnel, on apercevait une surface apparemment solide. Les immenses feuilles n'étaient plus qu'une surface miroitante, semblable à une sorte de grand océan vert concave. L'impression d'être dans un immense bol et incapable de s'en échapper était presque accablante. À cause de l'atmosphère piégée dans leur champ de confinement, il émanait des branches une lueur bleue qui prêtait aux milliers de clics de bois vineux et de feuilles tremblantes une sorte de rayonnement électrique bleuâtre, comme si toute la surface interne était chargée d'électricité. Et partout, il y avait de la vie et du mouvement. Les anges extra aux ailes d'une centaine de clics ne se contentaient pas de volter entre les branches et au-delà des feuilles, mais se précipitaient dans l'espace, à l'intérieur vers le soleil, plus rapidement vers l'extérieur, passer le système de racines de 10 000 clics. Une myriade de formes de vie plus petites miroitaient dans l'enveloppe bleue de l'atmosphère. Petites diaphanes, chênes féeriques, perroquets, arboricoles bleus, singes de l'ancienne terre, vastes bancs de poissons tropicaux nageant en G0 qui cherchaient les régions embrumées par les comètes, hérons bleus, vols d'oies et de volatiles martiens couleur cognac, marsouins de l'ancienne terre. Nous nous retrouvâmes hors de portée avant que j'aie pu classer par catégorie une fraction de ce que je voyais. Plus loin, la vraie dimension des entités et des essaims de formes de vie les plus grands devint apparente. Arrivé à plusieurs milliers de clics de haut, je pus voir les troupeaux miroitants de plaquettes bleues et les Acheratae-lis sentients qui voyageaient de concert. Après notre première réunion ici avec les créatures de ma planète de nuages, j'avais demandé à Aéné si sur la biosphère de l'arbre étoile, il y en avait d'autres que les deux présentes à la conférence. Un peu plus, m'avait dit mon ami, environ 600 millions de plus. Maintenant, je pouvais voir les Acheratae-lis se déplacer aisément sur les courants aériens, de tronc en tronc que séparaient des centaines de kilomètres, en essaim de 1000, peut-être de 10 000. Et avec eux, leurs fidèles serviteurs, les calmars aériens, les zeppelins, les méduses transparentes et les immenses sacs de gaz pourvus de vrilles, semblables à celui qui m'avait avalé sur le monde de nuages. Mais plus grand encore. J'avais estimé que ce monstre-là mesurait peut-être 10 clics de long. Ces bêtes en forme de dirigeable devaient faire plusieurs centaines de clics de long, plus si l'on tenait compte des innombrables tentacules, vrilles, flagelles, fouets, queues, palpeurs et appendices qu'elles arboraient. Je me rendis compte en les observant que toutes ces bêtes de somme géante des Acheratae-lis s'affairaient à certaines tâches, tissaient des branches, des tiges et des cosses en biomotifs complexes, élaguaient des branches mortes et des feuilles grandes comme des villes de l'arbre étoile, peinaient à mettre en place des structures conçues par les extros ou traînaient des matériaux d'un endroit à l'autre de la biosphère. Combien de zeppelins les Acheratae-lis contrôlent-ils sur l'arbre étoile? Demandai-je à Aéné quand elle fut libre une seconde.
« Je l'ignore. Demande à Nafson. »«
Nous n'en savons rien, » dit l'extro. « Ils se reproduisent lorsqu'on en a besoin. » Les Acheratae-lis eux-mêmes sont un exemple parfait d'organisme social, d'esprit de la ruche. Aucune des entités disques solitaires n'est sentiente. Branchés en parallèle, ils sont brillants. Les calmars aériens et autres créatures des ex-mondes jupitériens se sont reproduits ici selon les besoins depuis plus de 700 ans standard. Je dirais bien que plusieurs centaines de millions travaillent autour de la biosphère. Peut-être 1 milliard à cet endroit. Je regardais les formes minuscules se détacher sur la surface décroissante de la biosphère. 1 milliard de créatures, chacune grande comme le plateau du Pignon sur ma planète natale. Plus loin encore, les brèches entre les branches, à 1 million de clics au-dessus de nos têtes et 500 000 sous nos pieds, devinrent apparentes. La section dont nous venions était la plus ancienne et la plus dense. Mais le long de la grande courbure de la biosphère, il y avait des intervalles et des divisions, certaines planifiées, d'autres pas encore remplies de matériaux vivants. Des comètes amorçaient leur arc entre les racines, les branches, les feuilles et les troncs sur des trajectoires précises,
le don de l'eau était volatilisé à leur surface grâce aux rayons de chaleur propulsés par des ergues et dirigés par les extros, renvoyés par des troncs et des feuilles réfléchissantes génétiquement adaptées, qui créaient des miroirs de centaines de clics de diamètre. Les grands nuages de vapeur d'eau dérivaient entre les racines rampantes et embrumaient 1 milliard de clics carrés de surface feuillue. Des douzaines d'astéroïdes et de satellites bergers soigneusement répartis, plus grands que des comètes, se déplaçaient à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de la surface interne et externe de la sphère vivante, corrigeaient sa dérive orbitale, produisaient des marées afin d'aider les branches à grandir correctement, projetaient de l'ombre à la surface interne de la biosphère là où elle était nécessaire, et servaient de base d'observation et de cabane aux innombrables jardiniers extros et templiers qui veillaient sur le projet, de décennie en décennie et de siècle en siècle. Maintenant que nous étions à une demi-minute lumière et que nous accélérions vers le Soleil, comme si le vaisseau cherchait un point de translation en propulsion Hawking, il semblait y avoir encore plus de trafic dans le vaste creux de la sphère verte. Des vaisseaux de guerre extra, tous obsolètes selon les critères de la Pax, pourvus de renflements de propulsion Hawking ou d'une écope récupératrice de particules à l'avant de leur champ de confinement géant, des destroyers à jet élevé d'autrefois et des vaisseaux C3 d'une ère depuis longtemps disparue, d'élégants cargos aux grandes voiles solaires recourbées faites d'une monopellicule scintillante, et partout des anges extra, battant des ailes et miroitant, qui tiraient des bordées vers le soleil ou retournaient à toute allure vers la biosphère. Aîné et les autres revinrent à l'intérieur pour poursuivre leur discussion. Le sujet était d'importance. Ils essayaient toujours de trouver un moyen de tenir l'attaque de la Pax à distance, une espèce de feinte ou de diversion qui empêcherait la flotte de se précipiter ici, mais j'avais des choses plus importantes en tête. Lorsque Abétique se détourna pour quitter le balcon, je touchai la manche droite de l'androïde. « Vous voulez bien rester une minute pour parler avec moi ?»«
Bien sûr, Achandimion. »
La voix de l'homme à la peau bleue était toujours aussi gentille. J'attendis que nous soyons seuls sur le balcon, le bourdonnement de la conversation qui se tenait à l'intérieur nous offrant suffisamment d'intimité, et je m'appuyai sur la rambarde.
Je regrette que nous n'ayons pas eu la chance de pouvoir bavarder depuis notre arrivée sur l'arbre étoile, dis-je.
Le crâne chauve d'Abétique brillait dans la somptueuse lumière du soleil. Le regard de ses yeux bleus était calme et amical.
C'est tout à fait normal, Achandimion. Les choses ont été plutôt trépidantes depuis que nous sommes ici. Cependant, je suis d'accord avec vous. Cet artefact donne envie aux gens d'en discuter.
Il montra de la main qui lui restait l'immense courbe de l'arbre étoile, là où elle semblait s'effacer, au voisinage de l'éclat du soleil central.
« Ce n'est pas de l'arbre étoile ou des extros que je désire parler, »
dis-je à voix basse en me rapprochant un peu plus de lui. Abétique hocha la tête et attendit.
« Vous étiez avec Aîné sur tous les mondes entre l'ancienne Terre et Tien Shan, Ixion, Alliance Maui, le Vecteur Renaissance et les autres. »«
Oui, Achandimion. J'ai eu le privilège de rester avec elle durant tout le temps où elle permit à d'autres de voyager en sa compagnie. »
Je me mâchouillais la lèvre, me rendant compte que j'allais me ridiculiser, mais je n'avais pas le choix. « Que s'est-il passé quand elle ne vous a plus permis de voyager avec elle ?»«
Pendant que H-Rachel, H-Théo et les autres restaient avec moi sur Groombridge Dyson Day, nous avons poursuivi le travail de H-Aîné. J'étais surtout occupé à la construction de... »«
Non, non, » interrompais-je.
« Je parle de ce que vous savez sur son absence. »
Abétique fit une pause.
« Quasiment rien, Achandimion. Elle nous a dit qu'elle partait pour un certain temps. Elle s'était arrangée pour que nous ayons un emploi et que nous puissions continuer le travail avec ses étudiants. Un jour, elle disparut et elle dut rester absente pendant approximativement 2 années standard.
« 1 an, 11 mois, 1 semaine, 6 heures, » dis-je.
« Oui, Achandimion, c'est tout à fait exact. »
Et après son retour, elle ne vous a pas expliqué où elle était allée ?
Non, Achandimion. Autant que je sache, elle n'en a jamais parlé à aucun d'entre nous.
J'aurais voulu prendre Abétique par les épaules, lui faire comprendre, lui expliquer que c'était une question de vie ou de mort pour moi.
Aurait-il compris?
Je l'ignore.
Au lieu de cela, tentant de paraître calme, presque indifférent et échouant misérablement, je lançai. Avez-vous remarqué qu'Aînée avait changé lorsqu'elle revint de ce temps sabbatique? Mon ami androïde fit une pause. Non, semblait-il, parce qu'il hésitait à parler, mais comme s'il s'efforçait de se souvenir des nuances qu'offrait l'émotion humaine.
Nous sommes partis pour Tien Shan presque immédiatement après à Chandimion. Mais ce dont je me souviens le mieux, c'est que Hachéné fut la proie de ses émotions pendant plusieurs mois. Rempli d'allégresse, puis une minute après, totalement tenaillé par le désespoir. Le temps que nous arrivions sur Tien Shan, ses oscillations émotionnelles semblaient avoir décru.
Et elle n'a jamais parlé de ce qui les provoquait? J'avais l'impression de me comporter en cochon derrière le dos de mon aimé, mais je savais qu'elle ne voudrait pas me parler de ces choses. Je repris mon souffle.
Avant qu'elle parte sur ces autres mondes, Amritsar, Patofa, avant de quitter Grombridge d'Isonde, avait-elle... A-t-elle... Y a-t-il eu quelqu'un?
Je ne comprends pas, Achandimion. Y a-t-il eu un homme dans sa vie abétique?
Quelqu'un pour qui elle montrait de l'affection? Quelqu'un qui semblait particulièrement proche d'elle?
Ah, dit l'androïde. Non, Achandimion, aucun mâle n'a paru montrer un intérêt spécial pour Achéné, autre que celui qu'on éprouve pour un maître et un messie possible, bien sûr.
Oui, et personne n'est revenu avec elle après ce délai d'une année, 11 mois, 1 semaine et 6 heures.
Non, Achandimion.
Je saisis Abétique par l'épaule.
Merci, mon ami. Je suis désolé d'avoir posé ces questions stupides. C'est seulement que... je ne comprends pas. Quelque part, il y a un... Oh merde, peu importe. C'est seulement une stupide émotion humaine.
Je me détournais pour aller rejoindre les autres. Abétique m'arrêta en posant la main sur mon poignet.
Achandimion, dit-il d'une voix douce. Si l'amour est l'émotion humaine à laquelle vous faites allusion, je pense avoir observé l'humanité suffisamment longtemps au cours de mon existence pour savoir que l'amour n'est jamais stupide. Je sens que Hachéné a raison quand elle enseigne qu'il est peut-être le ressort énergétique principal de l'univers.
Je restais là, à regarder, bouche bée, l'androïde quitter le balcon pour rejoindre l'étage de la bibliothèque, fourmillant de monde. Ils étaient sur le point de prendre une décision.
« Je pense que nous devrions expédier le courrier drone à propulsion Gédéon avec un message »,
disait Aîné lorsque j'entrais dans le salon.
« L'envoyer directement et immédiatement.
Ils le confisqueront »,
décréta Sian Quintana Kahan de sa voix musicale de contralto.
« Et c'est le seul vaisseau à propulsion instantanée qui nous reste.
Tant mieux »,
fit Aîné.
« C'est une abomination. Chaque fois qu'on s'en sert, une partie du vide est détruite. »
Pourtant.
Rétorqua Paul Huret, son épais dialecte extro donnant l'impression qu'il parlait à la radio parmi une multitude de parasites.
Reste la possibilité d'utiliser le drone comme système d'éjection.
Pour lancer des têtes nucléaires ou des armes à plasma contre l'armada?
Demanda Aîné.
Je croyais que nous avions écarté cette possibilité.
C'est le seul moyen de les frapper avant qu'ils nous attaquent,
dit le colonel Kassad.
Cela ne servirait à rien,
dit la voix de l'arbre étoile authentique Kate Rostin.
Les drones ne sont pas conçus pour viser un objectif précis. Un vaisseau de guerre de classe Archange le détruirait à plusieurs minutes-lumière de sa cible. Je suis d'accord avec celle qui enseigne. Envoyons le message.
Mais ce message retardera-t-il leur attaque?
Demanda Sistench Coredwell. Aîné fit le petit geste que je lui connaissais si bien.
Il n'y a aucune garantie. Mais s'ils les déstabilisent, au moins utiliseront-ils leur drone à propulsion instantanée pour ajourner l'attaque. Cela vaut la peine d'essayer, je pense.
Et que dira le message?
Demanda Rachel.
S'il vous plaît, passez-moi ce vélin et ce stylet,
demanda Aîné. Théo les apporta et les posa sur le Steinway. Tout le monde, moi compris, s'approcha pendant qu'Aîné écrivait « Au pape Urbain XVI et au cardinal Lourdussamy, je viens sur Passem au Vatican. Aîné.
Là,
dit ma jeune amie en tendant le vélin à Nafsan Amnim.
S'il vous plaît, mettez cela dans le courrier drone quand nous arriverons au dock. Programmez le transpondeur sur port du message en reprographie et lancez-le vers le système de Passem.
L'extro prit le vélin. Je n'avais pas encore appris à déchiffrer les expressions faciales des extros, mais je pouvais dire que quelque chose le faisait hésiter. Peut-être était-ce une forme atténuée de la panique et de la confusion qui remplirent aussitôt ma poitrine.
Je viens sur Passem. Mon Dieu de merde, qu'est-ce que cela voulait dire? Comment Aînée pouvait-elle se rendre sur Passem et survivre? C'était impossible. Et si elle y allait? J'étais certain d'une seule chose. Je serais à ses côtés.
Ce qui signifiait qu'elle allait aussi provoquer ma mort, si l'on pouvait la croire sur parole. Jusqu'à maintenant, cela avait toujours été le cas.
Je viens sur Passem.
Était-ce juste un stratagème pour détourner leur flotte? Une menace en l'air? Une manière de les tenir à distance? J'aurais voulu secouer ma bien-aimée jusqu'à ce que ses dents tombent ou qu'elle m'explique tout.
Roll,
appela-t-elle en me faisant signe d'approcher. Je pensais que peut-être ce serait l'explication que je désirais, qu'elle lisait mon expression de l'autre côté de la pièce et voyait mon agitation. Mais tout ce qu'elle dit, ce fut
« Palukoror et Drivench Nikahagat vont me montrer l'impression que cela fait de voler comme un ange. Veux-tu m'accompagner? Lomo vient avec nous. »
Voler comme un ange? Un moment, je fus certain qu'elle parlait en charabia.
« Ils ont une combinaison peau supplémentaire si tu veux venir, » disait Aînée. « Mais il faut y aller maintenant. Nous sommes presque revenus à l'arbre étoile et le vaisseau va s'amarrer dans quelques minutes. Etmastine doit poursuivre le chargement et l'approvisionnement de l'Yggdrasil et j'ai une centaine de choses à faire avant demain. »
« Ouais, » dis-je, ne sachant pas à quoi j'acquiesçais.
« Je viens. »
À ce moment, je me sentais assez maussade pour penser que cette réponse était une merveilleuse métaphore de toute mon odyssée de 10 années.
Oui, je ne sais pas ce que je fais, ni dans quoi je me fourre, mais je suis de la partie.
L'un des extros adaptés à l'espace, Palukoror, nous tendit les combinaisons peau. J'en avais déjà utilisé avant, bien sûr. La dernière fois, c'était quelques semaines auparavant, quand Aînée et moi avions gravi le Taishan, le grand pic de l'Empire du Milieu, bien que cela me parût remonter à des mois ou des années. Mais je n'en avais jamais vu de comme cela. Les combinaisons peau remontent à plusieurs siècles, l'idée étant que le meilleur moyen d'empêcher le corps d'exploser dans le vide, ce n'est pas un volumineux scaphandre pressurisé, comme au premier jour des vols spatiaux, mais une protection si mince qu'elle permet à la transpiration de passer tout en protégeant la peau de la chaleur, du froid et du vide terrible de l'espace. Les combinaisons peau n'ont pas beaucoup changé pendant les siècles, sauf que l'on y a incorporé des filaments de régénération d'atmosphère et des panneaux d'osmose. Bien sûr, ma dernière combinaison peau avait été un artefact de l'hégémonie, suffisamment efficace, jusqu'à ce que Radamante Nemes la mette en lambeaux avec ses ongles. Mais celle-ci n'était pas une combinaison peau ordinaire. Argentée, aussi malléable que du mercure, la chose ressemblait à une grosse goutte de protoplasme, chaude et dépourvue de poids, lorsque Palukoror la laissa tomber dans ma main. Elle bougeait comme du mercure. Non, elle se déplaçait et coulait comme une chose fluide, vivante. De surprise, je faillis la lâcher et la rattrapai de l'autre main pour la voir remonter le long de mon poignet et de mon bras comme un monstre extraterrestre mangeur de chair. Je dus m'exclamer parce que Aînée me dit
« C'est vivant, Roll. La combinaison peau est un organisme. » Aux gènes manipulés, issus de la nanotechnique, mais épais seulement de 3 molécules.
Comment dois-je l'enfiler? Demandai-je en la regardant remonter le long de mon bras jusqu'à la manche de ma tunique, puis reculer. J'avais l'impression que cette chose était plus carnivore que vêtement. Et le problème avec une combinaison peau, c'était qu'il fallait la porter sur la peau. On ne devait rien mettre sous une combinaison peau, absolument rien.
C'est facile. Pas besoin de tirer dessus et de se débattre avec, comme on devait le faire avec les vieilles combinaisons peau. Il te suffit de te déshabiller, de rester immobile et de poser la chose sur ta tête. Elle coulera sur toi du haut en bas. Il faut nous dépêcher.
Cela ne m'inspirait pas un grand enthousiasme. Nous nous excusâmes, Aînée et moi, et montâmes au trot jusqu'à la chambre à coucher au sommet du vaisseau. Une fois là, nous nous hâtâmes d'ôter nos vêtements. Je regardais ma bien-aimée, nue à côté de l'ancien et très confortable, je m'en souvenais, lit du consul, et fut sur le point de suggérer un meilleur usage de notre temps jusqu'à ce que le vaisseau arbre s'amarre. Mais Aîné me fit, de l'index, un geste de remontrance, leva la goutte de protoplasme argenté au-dessus de sa tête et la laissa tomber sur ses cheveux. Ce fut inquiétant de voir l'organisme argenté l'engloutir, couler sur ses cheveux châtain clair comme du métal liquide, recouvrir ses yeux, sa bouche et son menton, descendre le long de son cou telle une lave réfléchissante, puis envelopper ses épaules, ses seins, son ventre, ses hanches, son pubis, ses genoux. Pour finir, Aîné leva un pied, puis l'autre, et ce fut terminé. « Tu vas bien ?» demandai-je d'une petite voix tandis que ma propre goutte d'argent palpitait dans ma main, avide de me dévorer. Aîné, ou la statue de chrome qui avait été Aîné, leva les pouces et me montra sa gorge. Je compris. Comme avec les combinaisons peau, à partir de maintenant, la communication s'effectuerait grâce à des lecteurs de sous-vocalisation. Je pris à deux mains la masse palpitante, retins ma respiration, fermai les yeux et la laissai tomber sur ma tête. Cela prit moins de 5 secondes. Durant un épouvantable instant, je crus que je ne pourrais plus respirer en sentant la masse glissante recouvrir mon nez et ma bouche. Puis je me souvins qu'il fallait inhaler et l'oxygène me parvint, froid et pur.
« Tu m'entends, Roll ?»
Sa voix était bien plus distincte qu'avec les écouteurs de la vieille combinaison. Je hochai la tête, puis sous-vocalisai.
« Oui, je me sens bizarre. Êtes-vous prêt à chaîner, à Chandimion ?»
Il me fallut une seconde pour comprendre que c'était l'autre extro adapté, Drivenge Nika Agathe, sur la ligne de ma combinaison. J'avais déjà entendu sa voix, mais transmise par un synthétiseur de paroles. Sur la ligne directe, elle était plus claire et mélodieuse que le chant d'oiseau de Sian Quintana Kahan.
Prêt, répondit Aîné,
et nous descendîmes l'escalier en colimaçon, fendîmes la foule et sortîmes sur le balcon.
Bonne chance, Aîné, à Chandimion.
C'était Abétique qui nous parlait par l'une des lignes comme du vaisseau. L'androïde toucha l'épaule argentée de chacun de nous, tandis que nous nous postions à côté de Koror et de Nika Agathe, près de la rambarde. L'homo attendait aussi, sa combinaison peau argentée révélant chacun de ses muscles qui se dessinaient sur ses bras, ses cuisses et son ventre plat. Je me sentis gêné. J'aurais voulu soit porter quelque chose sur cette couche de fluide argenté fine d'un micron, soit m'être plus appliqué à rester en forme. Aîné était belle. Le corps que j'aimais sculpté dans le chrome. J'étais bien content que seul l'androïde nous ait suivis sur le balcon. Le vaisseau était à 2 ou 3 000 clics de l'arbre étoile et décélérait à fond. Palou Koror fit un geste et se percha aisément sur la mince rambarde du balcon en compensant le 6e degré. Drivenge Nika Agathe le suivit, puis l'homo, puis Aîné et, pour finir, infiniment moins gracieusement, je les rejoignis. La sensation d'être exposé à un terrible danger faillit me terrasser. Je me sentais à une telle hauteur. Le grand bassin vert de l'arbre étoile sous nos pieds, les parois feuillues dans le lointain clair, la coque du vaisseau s'incurvant en dessous de nous, en équilibre sur la mince colonne de sa traînée de fusion comme un bâtiment vacillant sur une fragile colonne bleue. Je m'aperçus, avec une impression de nausée, que nous allions sauter.
« Ne vous inquiétez pas. « J'ouvrirai le champ de confinement à l'instant précis où vous le franchirez et me tiendrai sur mes répulseurs EM jusqu'à ce que vous soyez hors de portée des gaz d'échappement de la propulsion. »
Je compris que c'était le vaisseau qui parlait. Je n'avais aucune idée de ce que nous allions faire.
« Les combinaisons vous donneront une idée approximative de notre adaptation, »
dit Palou Koror.
« Bien sûr, pour ceux d'entre nous qui ont choisi l'intégration totale, ce ne sont pas les combinaisons semi-sentientes et leurs processeurs moléculaires qui vont nous permettre de vivre dans l'espace, mais les circuits adaptés inclus dans notre peau, notre sang, notre vision et notre cerveau.
Comment allons-nous ?
Commençais-je. J'avais des difficultés à sous-vocaliser, comme si la sécheresse de ma bouche avait un effet sur les muscles de ma gorge.
Ne vous inquiétez pas, dit Nika Agathe. Nous déploierons nos ailes jusqu'à ce que la séparation proprement dite soit achevée. Elles n'entreront pas en collision, les champs ne le permettraient pas. Les commandes sont totalement intuitives. Les systèmes optiques de vos combinaisons vont s'interfacer avec votre système nerveux et vos neurosenseurs, en faisant appel à d'autres données si nécessaire.
Des données? Quelles données? J'avais seulement voulu penser cela, mais la com de la combinaison transmit mes questions. Aîné prit ma main argentée dans la sienne.
« Ça va être amusant, Roll. Ce seront les seules minutes de liberté que nous aurons aujourd'hui, je pense. Et pour un bon moment. »
À cet instant, en équilibre sur la rambarde, sur le point de faire une chute terriblement verticale dans les flammes de fusion et le vide, je ne me concentrais pas vraiment sur la signification de ces paroles.
« Allons-y !»
dit Palou Koror, et il bondit de la rambarde. Nous tenant par la main, Aîné et moi sautâmes de concert. Elle me lâcha la main et nous nous éloignâmes l'un de l'autre en tournoyant. Le champ de confinement s'écarta et nous éjecta à distance raisonnable, le moteur à fusion s'éteignit tandis que nous nous écartions du vaisseau, puis se ralluma. L'astronef parut reculer à toute vitesse lorsque sa décélération dépassa la nôtre et nous continuâmes à tomber. L'impression de chute était terrifiante. 5 silhouettes argentées, bras et jambes écartés, s'éloignant de plus en plus les unes des autres, toutes plongeant vers le treillis de l'arbre étoile, encore à plusieurs milliers de clics de nous. Puis nos ailes s'ouvrirent.
Pour ce que nous avons l'intention de faire aujourd'hui, nos ailes de lumière n'ont pas besoin d'avoir plus d'un kilomètre d'envergure,
dit la voix de Palou Koror dans mes oreilles.
Si nous voyagions plus loin et plus vite, elles s'étendraient davantage, peut-être sur plusieurs centaines de kilomètres.
Quand je levai les bras, les panneaux d'énergie sortant de ma combinaison peau se déployèrent comme des ailes de papillon. Je sentis la brusque poussée de la lumière solaire.
Ce que nous sentons, c'est plutôt le courant de la ligne du champ magnétique primaire que nous suivons,
expliqua Palou Koror.
Si vous le permettez, je vais manipuler vos combinaisons pendant une seconde. Voilà.
Ma vision changea. Je regardais sur ma gauche, là où Aîné tombait, déjà à plusieurs clics de moi, chrysalide d'argent scintillant entre ses ailes dorées en train de se déployer. Les autres brillaient derrière elle. Je pouvais voir le vent solaire, voir les particules chargées et les courants de plasma qui coulaient et tournoyaient le long de la géométrie infiniment complexe de l'héliosphère. Les lignes rouges du champ magnétique ondulant comme si elles étaient peintes sur les surfaces internes d'un Nautilus compartimenté, toujours en mouvement. Les contorsions convolutées multicolores à multiples couches, des courants de plasma refluant jusqu'au Soleil, qui ne ressemblait plus à une étoile pâle, mais était devenu le lieu géométrique de millions de lignes de champ convergents, des couches entières de plasma étaient expulsées à 400 km seconde et façonnées par les champs magnétiques qui palpitaient au-dessus de ces équateurs nord et sud. Je pouvais voir les serpentins violets des lignes magnétiques se précipiter vers l'intérieur, se tisser et s'entrelacer avec le rouge cramoisi des couches, explosant vers l'extérieur, du courant du champ, je pouvais voir les tourbillons bleus de l'onde de choc héliosphérique tourner autour des bords extérieurs du vaisseau étoile, les lunes et les comètes traverser le plasma comme des vaisseaux maritimes labourant de nuit une mer rougeoyante, phosphorescente, et je pouvais voir nos ailes dorées réagir à ce milieu magnétique formé de plasma, attraper les photons dans nos filets comme des milliards de lucioles, les surfaces des voiles s'enflaient dans les courants de plasma, nos corps argentés accélérés le long des replis miroitants et des géométries magnétiques spirales de la matrice de l'héliosphère. Outre cette vision accrue, l'équipement optique de la combinaison y superposait des informations sur ma trajectoire et des données mathématiques qui ne signifiaient rien pour moi, mais qui devaient avoir une importance de vie ou de mort pour ces extros adaptés à l'espace. Les équations et les fonctions passaient comme l'éclair, semblait flotter au loin, à un point critique, et je me souviens seulement d'un échantillon. G fois M3 fois MC divisé par R au carré est égal à ME fois V CIR au carré divisé par R. Et PR est égal à 1 plus K fois SR divisé par C. Et K est égal à RA divisé par RA plus A. Et AS moins A3 est égal à 1 plus K fois 6,3 10 puissance 17, fois R au carré divisé par 2 fois M fois R au carré en mètres par seconde carré. Et V1 au carré plus delta V carré plus 2 delta V fois racine de V1 carré plus VE carré est supérieur à V1 carré plus delta V carré plus 2 delta V fois V1. Même sans comprendre aucune de ces équations, je savais que nous approchions trop vite de l'arbre étoile. En sus de la vélocité du vaisseau, nous avions acquis notre propre vitesse en utilisant le vent solaire et le courant de plasma. Je commençais à voir comment les ailes d'énergie extra pouvaient éloigner quelqu'un d'une étoile à une vélocité impressionnante, mais comment faisait-on pour s'arrêter à ce qui semblait être à moins d'un millier de kilomètres ?
C'est fantastique, dit la voix de l'Homo. Stupéfiant.
Je tournais suffisamment la tête pour voir notre ami volant de Tien Shan, loin sur la gauche, à plusieurs kilomètres en dessous de nous. Il était entré dans la zone feuillue et s'élançait, en piqué, au-dessus de la tache floue et bleue du champ de confinement enveloppant comme une membrane osmotique les branches et les brèches qui s'ouvraient entre elles.
« Comment diable fait-il ça ?» me demandai-je.
De nouveau, j'avais dû sous-vocaliser ma pensée, car j'entendis le rire grave, caractéristique de l'homo qui émit
« Servez-vous de vos ailes, Roll ! Coopérez avec l'arbre et les ergues !»«
Coopérez avec l'arbre et les ergues ?»
Mon ami avait dû perdre la raison. Puis je vis Aîné étendre ses ailes, les manipuler à la fois par la pensée et les mouvements de ses bras. Je regardais le monde végétal approcher avec une vélocité effrayante, et je commençais à piger le truc.
« C'est bien !» dit la voix de Drivenge Nika Agat. « Captez le vent qui va vous repousser. Bien !»
J'observais les deux extros adaptés voltigeant comme des papillons, vis le torrent d'énergie du plasma s'élever de l'arbre étoile pour les entourer, et soudain je les dépassais comme s'ils avaient ouvert des parachutes. J'étais toujours en chute libre. Haletant contre le champ de la combinaison peau, le cœur battant la chamade, j'étendis mes quatre membres et souhaitais que les ailes s'élargissent. Les replis d'énergie miroitèrent et se déployèrent sur au moins deux clics. Sous moi, les feuilles bougèrent, tournèrent lentement et délibérément, comme dans un holo accéléré de fleurs cherchant la lumière, se replièrent l'une sur l'autre pour former une antenne parabolique lisse d'au moins cinq clics de diamètre, puis devinrent parfaitement réfléchissantes. La lumière du soleil m'éblouit. Si je l'avais regardé sans protection, je serais aussitôt devenu aveugle. L'équipement optique de la combinaison se polarisa. J'entendis la lumière solaire frapper ma combinaison peau et mes ailes, telle une forte pluie sur un toit métallique. J'ouvris encore plus largement mes ailes pour capter ce coup de vent étincelant, à l'instant même où les ergues, sur l'arbre étoile, repliaient la matrice de l'héliosphère, recourbant le courant de plasma pour Aîné et moi, nous décélérant rapidement mais sans nous faire de mal. Battant des ailes, nous pénétrâmes dans les branches extérieures en forme de charmille de l'arbre étoile pendant que les optiques de la combinaison continuaient à faire défiler des données sur mon champ de vision. VF est égal à V. VC carré est égal à 2 fois J-G fois M star fois MC divisé par RI fois MC. Ce qui m'assura, je ne sais comment, que l'arbre fournissait la quantité adéquate de lumière solaire calculée d'après sa masse et sa luminosité, pendant que l'ergue donnait juste assez de plasma héliosphérique et de feedback magnétique pour nous amener à une delta V0, avant que nous frappions l'une des immenses branches principales où le champ de confinement interdit. Aîné et moi suivîmes les extros, utilisant nos ailes comme ils utilisaient les leurs, nous élançant puis voltigeant, freinant puis les étendant pour saisir la vraie lumière du soleil et accélérer de nouveau, survolant à grande vitesse la couche feuillue extérieure de l'arbre étoile, puis plongeant de nouveau entre les branches, repliant nos ailes pour passer entre les nacelles ou les ponts couverts au-delà des champs de confinement, contournant en piqué les calmars aériens au travail, dont les tentacules étaient 10 fois plus longs que le vaisseau du consul, en train de décélérer avec précaution pour traverser le niveau des feuilles, puis rouvrant nos ailes afin de dépasser comme des flèches les bancs flottants de milliers de plaquettes Akerata Elis palpitantes et bleues qui semblaient nous saluer au passage. Il y avait une immense branche plateforme juste en dessous du chatoiement du champ de confinement. Je ne savais pas si les ailes pouvaient franchir le champ, mais Palouk Aurore passa à travers en provoquant un léger miroitement, tel un plongeur gracieux fendant des eaux tranquilles, suivi par Drivenge Nika Agat, puis l'Homo, puis Aîné. Pour finir, je les rejoignis, repliant mes ailes jusqu'à ce qu'elles ne mesurent plus qu'une douzaine de mètres, afin de traverser la barrière d'énergie et pénétrer, une fois de plus, dans l'air, les bruits, les odeurs et les brises froides. Nous atterrîmes sur la plateforme.
« C'est très bien pour un premier vol, »
dit Palouk Aurore, sa voix synthétisée pour l'atmosphère.
« Nous voulions seulement partager avec vous un moment de nos vies. »
Aîné désactiva la combinaison peau autour de son visage, la laissant couler pour qu'elle forme un col de mercure fluide. Ses yeux brillaient, plus animés que je ne les avais jamais vus. Sa peau claire était empourprée et ses cheveux mouillés de sueur.
« Merveilleux !»
s'écria-t-elle et elle se retourna pour me prendre la main et la presser.
« Merveilleux ! Merci infiniment ! Merci, 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 femme libre Nika Agathe, homme libre Koror !»« Tout le plaisir était pour nous, révéré qui enseigne !»
répondit Nika Agathe en s'inclinant. Je levai les yeux et m'aperçus que l'Yggdrasil était amarré à l'arbre étoile, juste au-dessus de nous, le kilomètre de branches et de troncs du vaisseau-arbre se confondant parfaitement avec les branches de la biosphère. Seul le fait que le vaisseau du consul, s'étant lentement posé, était maintenant tiré à l'intérieur de la nacelle d'amarrage par un calmar me permit de distinguer le vaisseau-arbre. Des clones d'équipage travaillaient fiévreusement, transportant des provisions et des cubes de Mobius à bord du véhicule spatial de Hetmastin, et je pus voir les douzaines de végétaux ombilicaux d'équipements de vie et les tiges de connexion qui couraient de l'arbre étoile au vaisseau-arbre. Aîné me tenait toujours par la main. Quand je détournais les yeux du vaisseau-arbre suspendu au-dessus de mon ami, elle se pencha et m'embrassa sur les lèvres.
« Peux-tu imaginer cela, Roll ? Des millions d'extros adaptés à l'espace, vivants ici, qui voyagent constamment dans toute cette énergie, volent pendant des semaines et des mois dans les espaces vides, parcourent à toute vitesse les rapides d'ondes de choc avant des magnétosphères et les tourbillons qui tournent autour des planètes. Chevauche les ondes de choc de plasma du vent solaire à 10 UA ou plus, puis vole encore plus loin, jusqu'à la cessation de celui-ci, à la frontière de l'héliopause éloignée de 75 à 150 UA de l'étoile, là où le vent solaire meurt et où le milieu interstellaire commence. Entendre le sifflement, les chuchotements et le fracas des grandes vagues de l'océan de l'univers. Peux-tu imaginer cela ?
Non. Je ne le pouvais pas. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Pas à ce moment-là. Abétique, Rachel, Théo, Cassade et les autres descendaient d'une liane de transit. Rachel apportait les vêtements d'Aîné, de Lomo, les miens. Les extros et les autres entourèrent de nouveau mon ami, exigeant des réponses à des questions urgentes, cherchant à clarifier des ordres, rendant compte du lancement imminent du drone à propulsion Gédéon. Nous fûmes séparés par la foule. Aîné se retourna pour me regarder et me faire signe. Je levai une main toujours argentée par la combinaison peau et répondis à son salut, mais elle avait disparu. Ce soir-là, plusieurs centaines d'entre nous prirent une nacelle de transport tirée par un calmar jusqu'à un site, à plusieurs milliers de clics au-dessus du plan de l'écliptique, sur la coquille interne de la biosphère de l'arbre étoile, mais le voyage dura moins d'une demi-heure parce que le zeppelin prit un raccourci, décrivant un arc dans l'espace qui séparait notre région de la sphère de l'autre. L'architecture des nacelles d'habitation et des plateformes communales, des tours formées par les branches et des ponts de cette section de l'arbre, pourtant encore très proche de la nôtre d'après n'importe quelle géographie intelligible de cette immense structure, semblait plus grande, plus baroque, étrangère. Et là, les extros et les templiers parlaient un dialecte légèrement différent, alors que les extros adaptés à l'espace s'ornaient de bandes de couleurs miroitantes que je n'avais pas vues auparavant. Il y avait aussi des bêtes et des oiseaux différents dans les zones où régnait l'atmosphère, des poissons exotiques nageant dans l'air embrumé, de grands troupeaux d'êtres qui ressemblaient aux orques de l'ancienne Terre, avec des bras courts et des mains élégantes. Et c'était seulement à quelques milliers de clics de la région que je connaissais. J'étais incapable d'imaginer la diversité de cultures et de formes de vie de cette biosphère. Pour la première fois, je compris ce qu'Aîné et les autres m'avaient dit et redit. La biosphère achevée compterait plus de surface interne que le total de toutes les surfaces planétaires découvertes par l'humanité en plus de 1000 ans de vol interstellaire. Quand l'arbre étoile serait terminé, la biosphère interne stimulée, le volume de l'espace habitable dépasserait celui de toutes les planètes de la Voie lactée. Nous fûmes accueillis, fêtés quelques instants sur des plateformes à 1/6 G remplies de centaines de dignitaires extro et templiers, puis conduit dans une nacelle si grande qu'elle aurait pu être une petite lune. Une foule de plusieurs centaines de milles d'extros et de templiers nous attendait, avec quelques centaines de sénéchés à l'huit et des multitudes d'Akerataelis qui planaient près du dé central. Clignant des yeux, je m'aperçus que les ergues avaient réglé le champ de confinement interne pour un confortable 6e degré qui poussait tout le monde vers la surface de la planète, mais je remarquai alors que les sièges s'étendaient en haut, au-dessus et autour de l'intérieur de la sphère. Je révisais mon estimation de la foule à bien plus d'un million. L'extro-homme libre, Nafson Amnim, et le templier voix de l'arbre étoile authentique, Catrostin, présentèrent Aînée, disant qu'elle apportait le message que leur peuple attendait depuis des siècles. Ma jeune amie s'avança vers le podium, regarda en haut, autour et en bas, comme pour prendre contact par le regard avec chaque personne présente dans l'immense espace. La sonorisation était si perfectionnée que nous pouvions l'entendre déglutir ou respirer. Ma bien-aimée semblait calme.
« Refaites vos choix, » dit Aînée.
Puis elle se retourna, s'éloigna du podium et descendit à l'endroit où les calices étaient posés sur la longue table. Des centaines d'entre nous donnèrent leur sang, de simples gouttes, et l'on fit passer les calices de vin aux multitudes qui attendaient. Je savais que nous, qui avions déjà reçu la communion d'aînés, ne pouvions pas servir un million de communiants extro et templiers, mais les assistants nous tirèrent quelques gouttes avec des lancettes stériles, les gouttes furent versées dans le réservoir de vin, des douzaines d'air passèrent les bulbes calices sous les robinets, et en une heure, ceux qui souhaitaient communier au sang d'aînés le reçurent. La grande sphère commença à se vider. Après ces trois mots, on ne pouvait plus rien dire de la soirée. Pour la troisième fois de ce long, interminable jour, le silence régna dans la nacelle de transport qui nous ramenait chez nous, à notre région de l'arbre étoile, à l'ombre de l'Yggdrasil qui devait partir dans une vingtaine d'heures. J'avais l'impression d'être un imposteur. J'avais bu le vin presque 24 heures plus tôt, mais rien senti de toute la journée. Rien excepté mon amour pour Aînée, c'est-à-dire l'amour absolument exceptionnel, unique, sans aucune référence, aucune équivalence. Les multitudes qui voulaient boire avaient bu. La grande sphère s'était vidée, même ceux qui n'avaient pas partagé la communion étaient restés silencieux, déçus par les trois seuls mots de mon ami, ou réfléchissant à quelque chose qui transcendait peut-être ce message. Je l'ignore. La nacelle de transport nous ramena à notre partie de l'arbre étoile et nous restâmes silencieux, sauf pour les communications les plus indispensables. Ce n'était pas un silence gêné ou désappointé, mais plutôt un silence plein de respect révérentiel, presque de peur, devant la fin d'une partie de sa vie et le commencement, l'espoir du commencement d'une autre. Refaites vos choix. En dépit de la fatigue et de l'heure tardive, Aînée et moi fîmes l'amour dans notre nacelle qui s'assombrissait. Notre étreinte fut lente, tendre et presque insupportablement douce. Refais ton choix. Ce furent les derniers mots qui flottèrent dans mon esprit tandis que je dérivais, littéralement, dans le sommeil. Refais ton choix. Je compris. Je choisissais Aînée et la vie avec Aînée. Et je crois qu'elle m'avait choisi. Je la choisirai et elle me choisira encore, demain et après-demain, et à chaque heure de ses lendemains. Refais ton choix. Oui. Oui.